Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Attendez, il y a mon aspirateur robot qui retourne chez lui. Est-ce que ça va les copains? Bonjour, bienvenue. Très content de vous retrouver. Salut Pemph. Bonjour tout le monde. Mon petit bout demande s'il peut boire son biberon devant le live. Oh, c'est trop mignon! Ben oui, dis-lui oui, évidemment, les enfants ont le droit de regarder ce live, bien entendu. Bien entendu. Ça bosse? Ça bosse? Il y en a beaucoup qui bossent dans le chat. C'est pratique pour le ménage d'aspirateur robot. Ouais, je confirme, ouais. Enfin, dans mon cas, à moi, oui. Après, ouais, il y en a plein qui sont au boulot. Télétravail, oui. Oui, télétravail, non. Jour de repos, oui. Remote en tant qu'ingé. Ouais, ok. Bienvenue à toutes et à tous. La séance commence à quelle heure? La séance commence à 15h. Je vais la rajouter dans le titre. Hop, voilà. Hop. Licenciement depuis 2 jours. Ah merde. Ah, ça, c'est dur, ça. Jean Massier à fond dans l'open space, mais vas-y, vas-y, mets à fond dans l'open space, y a pas de souci. Non seulement je bosse, mais je suis au bureau pour t'écouter. Bon, les gars, on va regarder ensemble la séance des questions d'actualité au gouvernement qui commence à 15h. On a le temps de discuter d'ici là pour voir de quoi elle va parler, quels sont les sujets qui vont être abordés, même si on commence à avoir une petite idée. Didé, didé, djoum. Et puis voilà, quoi, parler de l'actu. Moi aussi, mon boss n'est pas revenu de déjeuner tranquille. Oh bah ça va. Les QAG se doublent des QAS, les questions aux streamers. Bah exactement. Si tu veux. Flottille de la liberté pour LFI, je pense. Oui, je pense aussi que la France Insoumise va poser une question sur la flottille de la liberté qui a été arraisonnée par les autorités israéliennes. Et ses occupants ont été arrêtés, je crois. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a demandé le retour le plus rapide des ressortissants français. Je vous rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi la flottille de liberté qu'on les avait interviewés dans le cadre de Baxit la semaine dernière. Est-ce qu'il va y avoir une question sur l'incident dans un lycée qui vient d'avoir lieu? Moi, je ne sais pas, j'ai pas les questions, mais je suppose effectivement qu'il y a des députés qui vont vouloir se saisir du fait d'actualité terrible qu'on a appris aujourd'hui, un collégien a tué une surveillante de son collège à coups de couteau dans la Haute-Marne. Ouais. Merci Ishidev pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
C'est bien, on commence en se mettant dans le bain. J'ai pas suivi les débats ces derniers temps. Est-ce que le gouvernement ou les députés ont parlé des événements aux USA concernant les oppositions à l'ICI? Je sais pas, j'ai pas suivi, ça m'étonnerait, pour être très honnête. On va voir cet après-midi à la séance des questions au gouvernement, est-ce qu'il y aura des questions qui vont concerner les heurts entre la police et les manifestants à Los Angeles? Pour une affaire qui concerne assez peu la France, j'ai du mal à imaginer que le gouvernement français soit interrogé sur ce sujet-là, tu vois. Peut-être, hein, mais je vois pas très bien ce que le ministre pourrait dire. Donc on verra. Ton livre prône fièrement en tête de gondole de la doc de mon taf. Ah, trop bien. Merci. C'est pas la police, mais l'armée. Alors, l'armée a été déployée. L'armée a été déployée, la garde nationale a été déployée à la demande de Donald Trump sans l'avis du gouverneur de la Californie. Ce qui est une première depuis les années 60. À ma connaissance. Enfin, d'après ce que j'ai lu, en tout cas. J'en sais pas beaucoup plus que vous. D'ailleurs, j'ai des news sur ton livre. La librairie de Poutou l'a commandé pour moi. Sérieux? Merci. Voilà, la librairie de Philippe Poutou a commandé mon livre. C'est très gentil. Et bon courage à Poutou, hein, évidemment, pour sa librairie. Très très belle aventure. Apparemment, la dernière occurrence de la garde nationale sans accord, c'était pour protéger les manifs de Martin Luther King. Ouais, bah c'est les années 60, c'est les mouvements pour les droits civiques. J'ai pas l'impression qu'on soit aujourd'hui dans une situation similaire à celle de l'époque des mouvements pour les droits civiques autour de Martin Luther King et d'autres. Donc non, non, pour vous dire, j'ai du mal à imaginer que la France s'exprime sur le sujet. Je vois pas très bien ce que la France pourrait avoir à dire par la voix de ses gouvernants sur le sujet de la garde nationale à Los Angeles. Enfin, il se passe quoi? J'ai pas suivi. En gros, t'as la police aux frontières aux États-Unis s'appelle la ICE. ICE, pardon, ICE. Mais je crois que ça se prononce ICE en anglais. Et elle mène des opérations pour arrêter des migrants, pour reconduire à la frontière des migrants, notamment mexicains et sud-américains. Et il y a eu des manifestations, dont certaines ont viré à l'émeute, du côté de Los Angeles. Et Donald Trump a décidé de déployer la garde nationale dans l'État de Californie sans demander l'avis de l'État californien avant. Normalement, l'usage, la coutume, l'organisation habituelle veut que ce soit le gouverneur d'un État qui demande à ce que l'État fédéral intervienne. Et là, Donald Trump n'a pas attendu qu'on lui demande, il a directement fait intervenir des militaires fédéraux contre l'avis des gouvernants. Contre l'avis des gouvernants californiens, et ça fait craindre une escalade, en fait. Ça fait craindre une escalade avec les manifestants. La garde nationale, c'est les gendarmes. Oui. Si on... Alors, voilà. Les États-Unis, c'est une fédération, donc on ne peut pas tout à fait comparer ce qui existe en France et ce qui existe aux États-Unis. Ça ne marche pas tout à fait de cette manière-là. Mais disons que chacun des États a sa police, y compris sa police anti-émeute. Et en plus de ça, il existe des corps d'armée, ça peut être les marines, ça peut être d'autres, ça peut être la garde nationale, qui eux sont à l'état fédéral. Est-ce qu'on peut comparer la garde nationale à la BRAVEM? Et à la police en France. Oui, mais non. ça marche pas de la même manière. En France, on a une police nationale qui fait et on a aussi une gendarmerie nationale qui font le maintien de l'ordre dans les manifestations. On n'a pas une police supérieure qui vient intervenir. Si vous voulez vraiment tordre le truc, imaginez que c'est un peu comme si il y avait des policiers européens qui, sur seule décision de l'Union européenne, intervenait en France. Mais encore une fois, c'est tordre vraiment l'Union européenne pour en faire un truc que ça n'est pas, donc voilà. Mais disons que c'est un peu comme l'intervention de l'armée, quoi. Voilà, c'est un peu comme si l'armée intervenait en plus de la police pour gérer des manifestants, quoi. Police et gendarmerie. C'est une réserve de l'armée en plus. La garde nationale, peut-être, oui, c'est possible que ce soit une réserve. Avec des militaires d'actifs en plus. J'ai vu qu'il y avait aussi des militaires d'actifs qui avaient été mobilisés, notamment des Marines, des corps des Marines, qui interviennent à Los Angeles, ou autour de Los Angeles d'ailleurs. Il y a des Marines de Floride qui sont appelés. Ouais, bah voilà. Il y a des Marines qui interviennent en plus sur le terrain. Rien à voir avec la garde républicaine. Ça n'a rien à voir avec la garde républicaine. Vraiment rien. Est-ce qu'on sait quels ministres seront absents aujourd'hui? Non. Comment ça peut mal finir d'envoyer des marines dans une ville? Bah, c'est un peu la crainte des autorités californiennes. C'est que cet envoi de troupes fédérales n'exacerbe les tensions qui sont déjà importantes et ne précipite la violence. C'est quoi la garde républicaine? En France, la garde républicaine, c'est une garde, comment dire, d'honneur. Voilà, c'est un régiment d'honneur de l'armée qui est là pour symboliser l'armée et se prêter à des opérations d'apparat. Bah, rappelle-toi, c'est eux qui avaient dansé avec Aya Nakamura pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est les gardes républicains. C'est eux qui sont présents à l'Assemblée nationale pour accueillir la présidente de la séance. C'est eux qui entourent le chef de l'État lors de sa remontée ou sa descente plutôt des Champs-Élysées pendant le 14 juillet. Donc ils ont un orchestre, ils ont des chevaux, et ils sont là pour symboliser l'honneur de l'armée et jouer le rôle d'apparat. Ils ont un rôle purement représentatif. Oui, c'est ça, exactement, c'est ce que j'essaye de dire. Ils ont un rôle purement représentatif, pas vraiment d'intervention. Ils sont pas là pour intervenir, ils sont là pour être en grand uniforme, avec leur sabre, avec leur casque. Ils sont là pour symboliser quelque chose, mais ils sont pas là pour intervenir. C'est pas leur rôle. Et ce sont des gendarmes. Et oui, ce sont des gendarmes, les gardes républicains. La gendarmerie fait partie des corps militaires. Ils ont le statut militaire ou fonctionnaire? Bah, c'est à peu près la même chose, en l'occurrence. Et en l'occurrence, ce sont des militaires, les gardes républicains. L'escadron motocycliste de la garde républicaine est un partenaire incontournable du Tour de France depuis 1953. Voilà. C'est vrai qu'ils ont aussi une compagnie motocycliste. C'est vrai qu'il y a ça aussi à la garde républicaine. C'est pas que ça doit coûter cher, mais pour l'exemple, je supprimerais cette garde d'honneur en ces temps de disette annoncée. Mais qu'est-ce que tu ferais comme économie? De toute façon, c'est des militaires, ils vont rester militaires, donc ils continueront à toucher leur solde. Donc en fait, tu feras pas d'économie. Ou alors c'est très marginal. Ou alors de manière ultra marginale. Économie sur les chevaux. Mais on va pas les tuer, les chevaux. Qu'est-ce que t'économises? Un cheval qui te sert pas, il te coûte pas moins cher qu'un cheval qui te sert. Tu continues à les nourrir, tu continues à les loger. On peut les manger, ah, en période de Commune de Paris éventuellement, oui. C'est pas 10 chevaux qui vont redresser la France.
Non.
Non, ça s'appelle se faire plaisir. Ça, c'est pas faire des économies. Ça s'appelle s'offrir un kiff symbolique. C'est très, très, très symbolique. Non, mais on verra. On verra les questions au gouvernement qu'on aura cet après. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi les sujets d'actualité sur lesquels on peut entendre le gouvernement cet après-midi? Moi, je vous ai dit les États-Unis, la Californie, j'y crois pas beaucoup. L'assassinat d'une enseignante, d'une surveillante par un collégien en Haute-Marne, ça, j'y crois. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites, ouais, ça, oui. La flottille pour Gaza, oui. Ça, je pense que la France insoumise va au moins poser une question sur Rima Hassan, qui, je le rappelle, est députée européenne insoumise. Et dont le bateau a été arraisonné par les autorités israéliennes. Elle a été arrêtée. La France demande le rapatriement rapide des ressortissants français. J'ai pas plus d'informations pour l'instant. Je sais pas si vous en avez, vous, d'ailleurs, des nouvelles. Elle est bloquée en Israël. Bah, aux dernières nouvelles, c'est ce que j'avais entendu. Ouais, elle est bloquée en Israël. Les sessions extraordinaires, ça fera pas l'objet d'une question au gouvernement. C'est pas tant au gouvernement d'en décider. Oh, remarque, si, en partie. Elle a refusé de rentrer, elle sera jugée puis expulsée. D'accord, ok. Elle va être jugée en Israël. Alors que Greta Thunberg, elle est déjà de retour en France, je crois. Elle n'a pas une immunité diplomatique, Rima. Je pense pas qu'elle ait une immunité diplomatique, mais le fait qu'elle soit députée européenne, ça force les autorités françaises et européennes à réagir et à demander sa libération. Selon Clémence Guettet, elle n'a pas refusé de rentrer, mais elle a refusé de signer un papier disant qu'elle était entrée illégalement en Israël. D'accord, ok. En fait, oui, c'est pas étonnant. Elle a refusé de reconnaître que ce qu'elle faisait était illégal aux yeux d'Israël. Et donc, elle sera jugée au lieu de simplement être expulsée. Ouais, ok, c'est bon. J'ai compris. C'est logique. Certains membres ont signé afin de pouvoir rentrer vite et témoigner. Ok, d'accord. Elle est protégée par le droit international en tant qu'élue de l'Union européenne agissant dans le cadre de son mandat. Oui, alors tu sais, le droit international, Israël, c'est pas trop ce qui les empêche de dormir. Et ensuite, oui, c'est normal qu'elle ait une protection, du fait de son mandat de députée européenne, c'est ce que je disais. Mais elle va quand même être jugée. En quoi elle agit dans le cadre de son mandat, là? Bah, elle est députée européenne, donc poser des questions sur le blocus maritime à Gaza par Israël, ça fait partie de son mandat, hein. Ça fait partie du mandat de député européen que de s'intéresser au conflit israélo-palestinien. C'est pas exorbitant du mandat d'élu. Tu vois, elle aurait été élue locale, on aurait pu en discuter. Mais là, députée européenne, si, ça fait partie du taf. toute façon, elle avait le droit d'accéder à Gaza par la mer, l'ONU la soutenait. Bah ça, c'est le droit international qui était censé empêcher le blocus maritime israélien, mais de facto, il y a un blocus maritime qui est fait par Israël depuis des années et des années maintenant. C'est ça d'ailleurs que voulait dénoncer la Flotille pour la Liberté. Le blocus est illégal, donc ils ont le droit de s'y rendre. Oui, en principe. C'est toujours pareil avec l'état de fait en droit international. Et nous, comme citoyens européens, que pouvons-nous faire? Bah, te mobiliser, voter, militer, rejoindre une organisation, quelle qu'elle soit, hein, politique, syndicale, organisation non gouvernementale. En plus, le navire n'a pas été intercepté dans la mer territoriale de ce que je comprends. Non, dans les eaux internationales. Mais de facto, encore une fois, de facto, Israël a un contrôle sur les eaux internationales proches de Gaza. Pourquoi Macron hésite à nouveau pour la reconnaissance de l'État de la Palestine? Je ne sais pas pourquoi Macron hésite. Sur la reconnaissance de l'État palestinien, il avait dit que ce serait en juin. Il avait dit que ce serait en juin. Donc je sais pas où ça en est. J'ai pas, vous avez entendu vous, des infos comme quoi la France reconnaîtrait l'État palestinien prochainement là? Moi j'ai pas d'infos. Hein. Il me semble qu'il attend le sommet de New York. Il espère que d'autres fassent la même chose en même temps que lui. Ah, d'accord, il y a un sommet qui doit avoir lieu sur le sujet aux USA. Mais il est quand ce sommet? Moi, j'ai pas suivi, hein, je suis désolé, j'ai pas suivi l'avancée du truc. Parce que je me souviens qu'il y avait un sommet entre la France et l'Arabie Saoudite qui devait se tenir au mois de mai. Ça, j'ai le souvenir de France-Arabie Saoudite. Mais aux États-Unis, ça, je sais pas. C'est en juin, le sommet, dans quelques jours. D'accord, c'est dans quelques jours. Il y a un article du Monde. Sur le sujet, Emmanuel Macron dans le dédale de la reconnaissance de l'État palestinien. Ok. Ok, d'accord. Aux États-Unis, ils ont Donald, nous on a Mickey. Petite phrase venant de l'île de la Réunion. Merci. Merci, merci. La conf avec l'Arabie Saoudite, c'est celle de New York. Ok, d'accord, donc c'est la même chose. On parlait bien de la même chose. Je ne savais pas que ça devait avoir lieu plus tard au mois de juin, à mi-juin. Moi, dans ma mémoire, c'était au mois de mai. Et c'était à l'issue de la conférence que la France reconnaîtrait l'État palestinien. Il a annoncé que lui et l'Angleterre ne reconnaîtraient pas la Palestine. Il a reculé sur la question. Il a reculé, il a dit qu'il n'y aurait pas de reconnaissance. Ça, c'est lamentable, parce que ça sert à quoi de l'annoncer en avril pour reculer en juin? C'est quand même lamentable comme move. C'est pour gagner du temps, c'est pour faire monter la pression dans les négociations. C'est parce que Trump est trop fort, peut-être. Il l'avait annoncé, oui, il l'avait annoncé, ouais. C'était pour tâter le terrain. Ouais, un ballon d'essai, quoi. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Je vois pas ce qu'il a obtenu. Y a pas de cessez-le-feu, y a pas d'arrêt de la colonisation à Gaza, ni en Cisjordanie. Du coup, je vois pas pourquoi il le ferait pas, en fait. Je vois pas en quoi la situation est différente de celle au moment où il avait annoncé que la France reconnaîtrait l'État de Palestine. Donc, bon. Bah, on verra, en tout cas. La prochaine étape, c'est ce fameux sommet à New York sur le sujet qui verra peut-être des avancées et qui verra peut-être la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Salut Marine. C'est quoi, à ton avis, l'intérêt politique d'Israël de faire avouer aux passagers du Madeleine qui sont rentrés illégalement en Israël? Bah, justement, c'est de leur faire reconnaître le blocus de fait. Le blocus maritime de Gaza et sa légitimité par l'État israélien. C'est ça l'intérêt. Si les passagers reconnaissent en signant un document qu'ils sont entrés illégalement, ça veut dire qu'ils reconnaissent avoir franchi une frontière qui est gardée par Israël et qui est légitime. Et je comprends pourquoi des passagers ont refusé de signer ça et préfèrent être jugés. Alors même que c'était pas dans les zones palestiniennes, mais dans les zones internationales. Ouais. Merci l'argumentarium pour ton raid. Bienvenue à vous. Alors même que c'était pas dans les eaux palestiniennes, mais dans les zones internationales. Oui. Oui. Même dans les zones internationales, bien sûr. Israël essaye de faire reconnaître sa légitimité à contrôler les entrées et les sorties de bateaux dans les eaux internationales proches de Gaza. C'est qu'en fait, les eaux internationales, elles cessent d'être internationales dès lors qu'un État décide de mettre la barrière à cet endroit-là. Que ce soit au respect du droit international ou pas. Normalement, les eaux de Gaza ne sont pas non plus à Israël. Mais normalement, Gaza n'est pas à Israël. Hein. Je vous rappelle qu'Israël, à l'heure où je vous parle, ils sont dans Gaza avec des tanks. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, non. Normalement, les eaux de Gaza ne sont pas à Israël. Mais Israël les contrôle quand même. Israël viole le droit international, je vous rappelle. Donc il ne suffit pas de dire oui, mais le droit international dit que, puisque visiblement, ils en ont rien à foutre. Il n'y a pas de normal, en fait, dans cette situation. Le droit international, combien de divisions? On fête l'anniversaire de la dissolution. Est-ce que tu penses qu'on aura une remarque à ce sujet? Ah ouais, peut-être, t'as raison. Mais c'est vrai, t'as raison, dis donc, mesdames et messieurs. Vous avez peut-être pas remarqué, mais c'est l'anniversaire de la dissolution. Il y a un an, on était aux élections européennes. Rappelez-vous, à 20h25, je crois, de mémoire, Emmanuel Macron prenait la parole et annonçait la dissolution. Cocorico, hein. la naissance du nouveau Front Populaire dès le lendemain matin dans la matinale de France Inter, dans la bouche de François Ruffin. Est-ce que Macron va redissoudre, d'après vous? Moi, je l'ai entendu dire qu'il ne souhaitait pas de nouvelles dissolutions. Mais la question, c'est est-ce qu'il ne va pas être contraint et forcé de dissoudre quand même? Ne pas. Est-ce qu'il peut se retrouver dans une situation dans laquelle il est en incapacité de faire autre chose que de dissoudre? J'en sais rien. S'il fait ça, il met Marine dans la sauce. Oui, Marine Le Pen pourrait pas se représenter à un mandat de députée si jamais il y avait une dissolution, mais c'est pas, ça l'empêcherait pas de rester la candidate préférée pour le Rassemblement national pour l'élection présidentielle. Jusqu'à son appel, je vous rappelle que ce sera l'année prochaine, je crois. L'été prochain. Dissoudre pourquoi? On risque de se retrouver avec une assemblée proche de celle qu'on a aujourd'hui. Pas force, vont un peu changer. Les forces vont un peu changer, mais ce sera tout, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a de fortes chances que l'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui soit la même que celle qu'on aurait en cas de dissolution, hein. J'essaie de retrouver. Voilà. Ça, c'est l'assemblée qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est l'assemblée qu'on a aujourd'hui. S'il y avait une dissolution demain, à mon avis, on aurait sensiblement la même chose. Après, ça peut être surprenant, hein. En tout cas, si on ne change pas le mode de scrutin, on peut avoir des surprises en cas d'effondrement. Par exemple, le Rassemblement national peut s'effondrer dans les élections, hein. Peut-être qu'il y avait un effet Marine Le Pen et que le fait que Marine Le Pen soit inéligible, ça va toucher le Front National qui va s'effondrer un peu. Conflit Bardella-Le Pen. Ouais, en cas de conflit entre Bardella et Le Pen, ouais, c'est possible. Ou l'inverse, ça peut être la gauche aussi qui se met sur la gueule, hein. Il n'y aura peut-être pas d'union de la gauche. Peux légender les couleurs. Bah le rouge là c'est les communistes, le rouge bordeaux là c'est les insoumis, ça c'est les écolos, ça c'est les socialistes, ça c'est Renaissance, ça c'est le Modem, ça c'est Horizon, ça c'est Liot, ça c'est les républicains, ça c'est l'UDR en finement bleu ciel là, et ça c'est le Rassemblement national derrière ma caméra. Il est possible que Macron se décide finalement de dissoudre sous la pression du RN. Ah bon? Tu nous as expliqué que pendant cette année, le président n'avait plus de pouvoir de dissolution. N'ayant plus le pouvoir de dissolution, l'intérêt du RN était plutôt de faire pression sur le gouvernement pour durcir à son avantage le budget ou les propositions de loi. Seulement maintenant que le président récupère le pouvoir de dissolution, le RN a peut-être plus l'avantage de provoquer une nouvelle élection législative. Mais c'est pas sûr qu'il en ait envie, le Rassemblement national, de déclencher une nouvelle
Je
élection
veux que ça
législative.
t'étude.
Non, 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 pardon. Il n'en a peut-être pas envie, le Rassemblement national, de nouvelles élections législatives. Peut-être que c'est pas dans ton intérêt, justement. sur fond de division entre Bardella et Marine Le Pen, ils ont peut-être plutôt intérêt ou plutôt envie de faire autre chose, de temporiser jusqu'à 2027. En tout cas, je regarde le sondage dans le chat et vous êtes une majorité à dire qu'il ne va pas redissoudre. Vous êtes 59% à dire qu'il n'y aura pas de nouvelle dissolution. Merci Stilgard, merci Père Castor, merci Dounis, Salamèche, Madargine, Olitouf, Ticanis, Courtin 4, Phoenix, Alain Proust, Cocorita, EGH Polar, The Cakeface, Joafen, Egonit, Rudolf, Laurent Zacchio, Corrigan, Joe, Anarcholigarque, Suyani, Ichidev, merci beaucoup pour vos resubs. Et merci Dompteuse de Lutin. Après, on n'est pas à l'abri d'un sursaut de sagesse et qu'il reconnaisse qu'il a merdé pour pouvoir finir son mandat un peu plus sereinement. Si, si, en l'occurrence, Emmanuel Macron, il a reconnu qu'il avait merdé sur sa dissolution. Il l'avait dit, rappelez-vous, dans l'émission sur TF1. Il l'avait dit dans ses vœux déjà du 31 décembre 2024. Et il l'a dit aussi dans son émission de TF1 il y a quelques semaines, là, que c'était une erreur, la dissolution. Ça n'a pas marché. Exactement. Merci Camine44 pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup.
Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Très généreux de ta part. Les 5 subs offerts. Est-ce que t'as vu le doc de Public Sénat sur la dissolution ? Non, je crois pas. C'est le moment où je te dis que cette musique démonétise les VOD. Ah ouais ? Ah bah, il va falloir refaire une alerte alors. Ça implique quoi l'approbation des comptes à l'ordre du jour après les QAG ? Bah, ça, c'est un principe démocratique assez simple d'approbation des comptes de l'année précédente. Chaque année, on approuve les comptes de l'année passée pour passer à l'année suivante. T'as ça dans toutes les assemblées générales, dans tous les conseils d'administration, l'approbation des comptes. Et s'il y a des problèmes dans les comptes, et bah, ça veut dire qu'il faut en tirer les leçons pour les prochains budgets. C'est symbolique. Oui, c'est un peu symbolique. Mais c'est politique. C'est-à-dire que si jamais tu as une raison de voter contre l'approbation des comptes, il faut en tirer les conséquences et déposer des amendements dans le budget suivant, de manière à ce que cette fois-ci, les comptes soient approuvés. C'est comme pour la copro. Oui, c'est comme pour la copro. C'est déjà arrivé que le président dissout une législature commencée. C'était en 68 lorsque le général de Gaulle avait dissous la troisième législature. Oui, mais en 68, ça faisait suite à une présidentielle, non ? Ah bah non, pas du tout. Oui, non, oui, si, t'as raison, ouais. C'était déjà arrivé en 97. Alors non, en 97, les députés, ils étaient déjà élus depuis 88. Non. 93. Bah non, dissolution 95. Attends, j'ai un doute. Parce que 95, c'était les présidentielles. 93, c'était la vague bleue, avec, le RPR et l'UDF. Et ensuite, la législature, elle a duré jusqu'en 97. Et en 97, c'est ça, c'est 90, 93, puis 97. Oui, c'est bien ça, je me trompe pas. C'est bien élection de 93, puis dissolution en 97. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu de dissolution en 95. Non, il n'y a pas eu de dissolution en 95. Chirac a été élu, il n'a pas eu besoin de dissoudre l'Assemblée nationale, qui avait déjà une majorité qui était acquise à la droite, mais dans laquelle il y avait beaucoup de baladuriens. Et c'est ça qui emmerdait Chirac, qui a préféré avancer la fin du mandat des parlementaires plutôt que d'attendre l'impopularité. Donc il n'y a pas eu de dissolution en 95. Il a dissous en 97 en espérant se séparer des baladuriens pour avoir une majorité plus stable et plus favorable. Mais il n'a pas réussi. Parce qu'à la place, il a eu la gauche. C'était le fameux « j'ai voulu dissoudre l'Assemblée nationale, j'ai dissous la droite ». Dans les guignols de l'info. Mais quel con. Mais quel con. Ah là là, j'ai voulu dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. J'ai beaucoup aimé ton replay du CESE. Merci. D'ailleurs, petite annonce, les amis, mesdames et messieurs, petite annonce, attention. Backseat cette semaine aura lieu vendredi à 17h. Je répète, Backseat aura lieu vendredi à 17h en direct des 130 ans de la CGT. C'est un partenariat entre Backseat et la CGT. Nous serons aux 130 ans de la CGT. Nous faisons partie du programme. Il y aura une émission Backseat spéciale. C'est en public et ça aura lieu sur le parvis de la mairie de Montreuil. S'il y a des gens qui habitent en Île-de-France et qui veulent venir, c'est sur le parvis de la mairie de Montreuil. Merci Genjiro. Voilà, vous découvrez l'affiche. Fête des 130 ans de la CGT. À 17h, émission Backseat animée par Jean Massier en direct avec Sophie Binet. Et à 20h, les luttes à l'honneur avec Verbaudet, Travailleurs sans papier, Fonderie de Bretagne et bien d'autres. Et le soir, des concerts à Stéréotypie, Ben PLG, Petite Gueule, Bonbon Vaudou, Les Goguettes Thérèse, Planète Boom Boom et d'autres. Elle est chouette l'affiche. Il faut réserver ou il faut juste se pointer? Non, il faut juste se pointer. Là, il n'y a pas de réservation. Qui seront les chroniqueurs? Ce sera Thomas et Myriam de la CGT et Safia et Emilio pour Backseat. Pas mal, non? Ça va avoir de la gueule pour les 130 ans de la CGT. J'ai hâte de vous voir, venez. Et sinon, bah, venez en stream, hein, ce sera à 17h en direct. Dommage, c'est pas Bernard Arnault l'invité qu'à part. T'es con. Regarde, c'est mieux, on aura Sophie Binet en invité politique. Enfin, en invité de la semaine plutôt. C'est pas vraiment une politique. Mais ouais, non, on va faire une émission spéciale. On va parler des luttes, on va parler de l'histoire du syndicalisme avec une historienne qui sera avec moi. On va parler de l'histoire du syndicalisme. On va parler de la lutte contre l'extrême droite. On va parler d'ArcelorMittal et de la multiplication des plans de sauvegarde de l'emploi. On va parler du Conseil d'orientation des retraites. On va parler de plein de trucs. C'est qui l'historienne? J'ai oublié son nom là, je l'ai plus en tête. Je confonds toujours la CGT et la CFDT, c'est lequel le syndicat des cadres? C'est la CF. C'est la C... Non, c'est le... c'est l'UNSA cadre. C'est la CFE-CGC, voilà, c'est ça, c'est la CFE-CGC qui est le syndicat des cadres. Le MEDEF, c'est pas le syndicat des cadres, c'est le syndicat des entreprises. C'est la CFE-CGC. L'UNSA, c'est l'éducation. Alors non. L'UNSA, ça veut dire l'Union nationale des syndicats autonomes. Ça veut dire qu'il y a plein de syndicats dans l'UNSA. La CGT a un syndicat des cadres. Oui, il y a un syndicat des cadres CGT qui s'appelle l'UGICT-CGT. La CFDT aussi doit avoir une section cadre, hein, d'ailleurs. Comme la CGT. Ils font chier avec leurs acronymes. Ah bah c'est la grandeur de du syndicalisme. C'est vrai que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Bon, tu me diras, les politiques aussi, on finit bien par s'y faire. Donc comme quoi, entre le RN, le MoDem, le PS. LFI, le PCF. Là aussi, il y a plein d'acronymes. L'UPR. Putain, j'ai oublié l'UPR. Et j'ai oublié le PSG aussi. J'ai oublié le PSG. Terrible. La CMA-CGM, la DGFiP. La DGFiP. Faut pas oublier la DGFiP. MDR pour mandatory. C'est vrai, il y a MDR pour mandatory. La SNCF, l'URSSAF, le CPE, la CAF, la DGSI, la COGIP, la RATP, la... Non, non, effectivement. L'INSEE. La NPE. Alors, NPE, ça n'existe plus. Le CNRS, évidemment. Le GIEC. Les PTT. Les QAG. Le RER. Mister MV. L'ONU. Le CNES. L'INRAE. ADP. L'IGPN, l'OQTF, le JDG, l'ARCOM, LCP. Les ZFE, les ZFE, faut pas oublier les ZFE. BFM TV, évidemment, BFM TV, bien sûr. Le PTDR, t'es qui? C'est vrai, ça, PTDR, t'es qui? FNSEA. Bon, on arrête là, on arrête là. C'est bon, on arrête, on arrête, on arrête. Stop. Fin du wagonnet. Fin du grand 8. Où est-ce qu'on pourra suivre le stream vendredi? Sur cette chaîne-là. Sur cette chaîne-là. On a oublié la NUPES. Ouais, non, mais stop, on arrête. On arrête avec les acronymes, on a compris. Il y a beaucoup d'acronymes. Mais vous voyez qu'on finit par s'y faire, à force d'être dans le truc. Le bureau des acronymes a encore plein de travail devant lui. Absolument. Non, non, on a le temps, on a le temps, on est large. On est très, très large. On dit, on devrait faire des acronymes d'acronymes. Eh ben, bon courage. En tant qu'archiviste, je déteste les acronymes parce que CA, ça veut dire chiffre d'affaires et conseil d'administration. C'est vrai. C'est vrai que le CA, ça désigne deux choses différentes. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet d'actualité pour lequel on pourrait avoir une question au gouvernement aujourd'hui, d'après vous? Vous en pensez quoi? Le bac? Peut-être, ouais. MaPrimeRénov', ouais, MaPrimeRénov'. On a appris qu'Emmanuel Macron lui-même n'était pas content que le gouvernement ait supprimé les crédits pour MaPrimeRénov'. Je crois qu'il n'est pas prêt pour les annonces de juillet, hein. La santé mentale? Ouais. Les livraisons d'armes à Israël? Ouais, c'est possible. Vous avez raison. T'as un truc dans les veuches. Ah ouais. Ouais, il n'y a plus rien. L'autoroute suspendue, la 69. Bah, je sais pas s'il y aurait une question au gouvernement vu que c'est un vote de l'Assemblée nationale. À voir, c'est possible. La sortie de Mario Kart World. Peut-être qu'il y aura une question sur la sortie de Mario Kart World. World. Le conseil d'orientation des retraites qui préconise une augmentation de l'âge légal du départ à la retraite. Non, je sais pas, ouais. Je réfléchis, hein. Je pense qu'on a un bon tour des questions. On a évidemment le drame en Haute-Marne, hein, qui pourrait faire l'objet d'une question au gouvernement. Ou juste d'une minute de silence, je sais pas. Le lancement de la chaîne T18, ouais, certainement. Une question des écologistes sur les océans. Oui, tu as raison. Ouais, t'as raison sur les océans, ouais. C'est quoi T18? C'est une nouvelle chaîne de télé qui est dirigée par Kretinsky. Ou Kretinsky, je sais jamais comment il faut le prononcer. Eh bien le bonjour, eh bien le bonjour, et bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On va suivre ensemble la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale dans 5 minutes. Ça commence dans 5 minutes. On va la suivre en version commentée. Je vais peut-être en profiter pour aller me faire un café, moi, avant que ça commence, hein. Ça me paraît être le bon moment. Ou alors non, je le ferai pendant la séance. Je le ferai plus tard. Riche idée, ah non, non. Concernant le drame, est-ce qu'ils doivent pas annoncer leurs questions en amont? Non, c'est pas obligatoire. Ils peuvent le faire, mais c'est pas obligatoire. L'usage veut que les députés donnent le sujet de leurs questions en amont de la séance, mais c'est absolument pas obligatoire. C'est maintenant ou jamais le café. Non, c'est bon, ce sera plus tard. Ce sera plus tard. Didadidadoum. Est-ce qu'ils peuvent mentir en donnant un sujet et poser une question qui n'a rien à voir? Oui, c'est possible. Ça arrive jamais, mais c'est possible. Est-ce que le potichat est toujours là? Non, il n'y a plus de potichat chez moi. Il n'y a plus de potichat chez moi. Elle est retournée chez sa maîtresse. Elle ne se plaisait pas ici. On a organisé ça. Vraie question, est-ce que la croisière s'amuse vraiment? C'est une bonne question, ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça, c'est une bonne question, ça. Paris brûle-t-il? Paris brûle-t-il aussi, c'est une question. Tu parles du chat qui était dans tes bras la semaine passée. Ouais, je parle de ce chat-là, ouais. C'était pas la semaine dernière. Il est où le chat en Lego? Il est derrière moi là. Regarde, il est là. Quand est-ce qu'on mange, monsieur le ministre? C'est vrai, c'est à quelle heure la pause? Hop, je me prépare, je me prépare. Ça va commencer dans pas très très longtemps. Est-ce qu'on est à Versailles ici? What's in the box? Qui a tué Pamela Rose? Ah là là! On fait ce qu'on peut hein, pour trouver des questions au gouvernement intéressantes. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. What else? Très bonne question, what else? Est-ce que tu as réussi à te reposer un peu? Ouais, j'ai réussi à me reposer un peu. Pas autant que j'aurais voulu, mais un peu. On peut demander à ChatGPT quelle question il poserait. Bah vas-y, je te laisse lui poser. Je te laisse lui demander. Qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier? Alors, le lecteur vidéo de l'Assemblée nationale est en train de claquer. Merci pour les 5 subs offerts au
Je
chat.
possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Je cherche le live de l'Assemblée nationale sur YouTube. Ils le mettent toujours pas. Pas celui d'LCP, hein, celui de l'Assemblée nationale. Il y a une époque, ils le partageaient sur Dailymotion. Je sais pas si c'est toujours le cas. Non. Bon, c'est bon. On va continuer avec celui-là. Voilà, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël
Bonjour à
Braun-Pivet.
tous, la séance est ouverte.
La mine grave, visiblement, la présidente de l'Assemblée nationale, alors que le lecteur de l'Assemblée continue à faire des siennes.
Bonjour à tous, la séance est ouverte. Mes chers collègues, notre nation est endeuillée à chaque fois qu'un serviteur de l'État perd la vie dans l'exercice de ses fonctions. Hier soir, deux sapeurs-pompiers de 22 et de 23 ans sont décédés en portant secours à leurs concitoyens à Laon. Ce matin, une assistante d'éducation du collège François Dolto à Nogent, en Haute-Marne, a été mortellement poignardé par un élève de cet établissement. Face à ces drames effroyables, j'adresse les sincères condoléances de la représentation nationale aux familles et aux proches des victimes. Je veux, en notre nom à tous, dire la reconnaissance de la nation envers nos soldats du feu qui risquent leur vie pour nous protéger. Je veux aussi dire notre soutien à l'ensemble de la communauté éducative. La violence n'a pas sa place et n'aura jamais sa place dans nos établissements scolaires. En la mémoire de nos trois compatriotes décédés, je vous invite à observer une minute de silence.
Une minute de silence donc qui est observée par les députés de l'Assemblée nationale de tous les bancs à l'appel au recueil de la présidente Yaël Braun-Pivet pour deux pompiers qui sont décédés à Lens et une surveillante d'un collège qui a été tuée au couteau par un collégien en Haute-Marne, à Nogent. Vous voyez donc tous les députés qui observent un temps de recueillement sur tous les bancs, sans exception, pour la mort de ces trois serviteurs de l'État, pour reprendre l'expression qui a été utilisée par la présidente de l'Assemblée nationale. C'était pas à Lens, c'était à Laon. Ah, c'était à Laon, pardon, excusez-moi, c'était à Laon. Autant pour moi. Vous voyez le Premier ministre, François Bayrou, entouré de ses ministres, sur les bancs du ministère, des ministres au premier rang. Et tous les députés qui observent un moment de recueillement, ainsi que les membres du gouvernement.
Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.
Alors, le Premier ministre a l'opportunité de dire un mot à son tour au nom du gouvernement.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, c'est une rencontre, ces deux drames qui illustrent, comme vous l'avez dit exactement, le dévouement des uns au mépris de tous les risques et l'évolution de la société dans laquelle nous vivons qui entraîne d'autres types de drames. Ces deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires de 22 et 23 ans engagé avec enthousiasme pour une œuvre de sauvegarde collective, en ayant la certitude que, à la fois, ils allaient aider leurs concitoyens et qu'ils allaient réaliser de cette manière une partie de leur vie. Les deux écrasés sous un immeuble qui s'effondre, cela doit susciter chez nous une immense gratitude. Immense gratitude et mobilisation pour cette jeune assistante d'éducation, cette jeune surveillante, 31 ans, un petit garçon de 4 ans, les siens et ses proches, tous anéantis par la rencontre de ceux que d'habitude on ne voit que sur les écrans de télévision. Dans un bourg, nos gens en Haute-Marne, de 3500 habitants et dans un collège de 320 élèves. D'habitude, on voit des milieux sociaux profondément fragilisés et ça n'est pas le modèle ou le cas que nous rencontrons ici. Mais il y a une chose qui est certaine dans ce second drame, c'est que les armes blanches, les couteaux, sont en train de devenir, parmi les jeunes et les très jeunes enfants, le garçon qui a pris la vie de cette surveillance avait 14 ans, c'est en train de devenir une réalité de tous les jours. Nous en avons déjà parlé dans cet hémicycle.
C'est vrai qu'il y a déjà eu des interventions dans l'hémicycle pour tirer la sonnette d'alarme sur la prolifération des couteaux dans les collèges.
Nous devons faire, mais nous ne pouvons pas demeurer indifférents et les bras baissés devant ce qui est en train de se passer, devant cette vague qui progresse. Nous avons des décisions à prendre, dont certaines sont d'ordre législatif, d'autres sont d'ordre réglementaire. On a commencé de les prendre, puisque je veux rappeler que le drame de ce matin, il s'est déroulé alors qu'il y avait un contrôle des sacs par les gendarmes. Les contrôles que nous avons multipliés depuis 3 mois. Plus de 6000 contrôles, plus de 200 couteaux qui ont été saisis. Et encore 200 autres objets dangereux. Mais nous ne pouvons pas simplement déplorer. Nous sommes obligés, en conscience, en devoir, de prendre des décisions supplémentaires et nouvelles pour que nos enfants et ceux qui travaillent avec eux puissent être au minimum en sûreté. C'est une œuvre très difficile parce que, comme tout le monde le voit bien, ce n'est pas seulement un fait isolé, c'est une dérive de la société et des enfants dont nous avons la charge.
François Bayrou qui fait une longue intervention.
À les mettre à l'abri des drames qu'ils fomentent eux-mêmes. Et donc, Madame la Présidente, nous avons une immense tâche devant nous. Peut-être aurons-nous l'occasion d'y revenir dans une minute, mais je veux remercier la représentation nationale d'avoir une pensée pour ces deux garçons et pour cette jeune femme et pour le petit garçon qui était son fils.
Voilà les quelques mots du Premier ministre.
Merci
en
beaucoup,
conclusion sur cet hommage qui a été rendu en début de séance, et la séance va pouvoir commencer.
Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Marine Le Pen, présidente du groupe.
Et c'est Marine Le Pen qui va inaugurer le bal des questions au gouvernement pour le Rassemblement national, la présidente du groupe qui pose la première question.
Les mots n'ont jamais suffi, les mots ne suffisent pas, les mots ne suffiront pas. Aujourd'hui, alors qu'elle remplissait sa mission au service des enfants de France, qu'elle était un de ces maillons qui permet de garantir à nos enfants le droit à l'éducation, tel que décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à 31 ans, Mélanie est morte poignardée par un élève. Mes pensées vont à sa famille et en particulier à son très jeune enfant. Un nouveau drame vient donc de toucher l'école et par conséquent l'ensemble de notre nation. Un drame, pas un fait divers, sur lequel on brainwasherait un drame qui appelle une réponse politique. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que notre société a vu la vie être progressivement désacralisée. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Ces mots, tirés de la lettre publiée par la mère du jeune Elias, il y a quelques jours, sonnent terriblement justes en ce 10 juin. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame qui suscite la peur de toutes les familles qui vivent dans l'angoisse de voir l'un des leurs tomber sous le coup des barbares et qui suscite, c'est à la fois juste et légitime, l'émotion, l'indignation, voire même la colère.
Marine Le Pen, la présidente jugée inéligible du Rassemblement National qui demande... C'est pas la présidente du RN, pardon, c'est Jordan Bardella, le président du RN. Elle demande une réponse politique et comme c'est une chef de groupe qui pose la question, c'est le chef du gouvernement qui lui répond.
Le Pen de dire que les mots ne suffisent pas et ne suffiront pas. L'ampleur de la vague, nous la connaissons tous, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. C'est une décomposition de la société dans laquelle nous vivons et c'est le surgissement de pratiques de vie communes. L'un de mes collègues disait à l'instant tout bas que son petit garçon de 10 ans lui a dit « Quand est-ce que je pourrais avoir un couteau à l'école ?» Et ceci...
Attends, il parle de l'enfant d'un membre du gouvernement ?
Naturellement les plus fragiles. On a deux choses essentielles à faire. La première de ces choses, c'est construire... des règles et une réponse pénale qui puissent aller dans le sens de la dissuasion que ces jeunes, souvent garçons, pourront éprouver avant de se saisir d'un couteau et de le mettre dans leur sac. Je le rappelais, nous avons publié une circulaire pour qu'il y ait des contrôles de police et de gendarmerie à l'entrée des établissements scolaires.
Une circulaire, c'est une consigne qui est donnée par un ministre à ses services.
Le 7 mars, il y a eu 6200 contrôles. Près de 200 couteaux ont été saisis et 567 conseils de discipline ont été réunis pour lutter contre ce fléau. Nous allons travailler à l'application effective de l'interdiction de port de ce type d'armes. Il va falloir durcir la réglementation parce que un certain nombre de ces couteaux ne sont pas considérés comme des armes, même si ils sont construits pour une part d'entre eux pour figurer des armes très violentes. Il y a un deuxième travail que nous devons faire. C'est travailler à la question de la santé mentale des plus jeunes. À la première alerte, qu'il puisse y avoir examen, diagnostic et proposition de traitement ou en tout cas de prise de contrôle.
Donc la réponse politique, c'est plus de contrôle devant les établissements, un contrôle sur les couteaux qui va intervenir et un travail sur la santé mentale des jeunes.
Ce sont deux missions que nous ne pouvons pas éluder. Le 29 avril, j'ai demandé à Naïma Mouchou et au préfet Ravier de conduire un groupe de travail sous leur coprésidence dont les conclusions m'ont été rendues le dernier jour du mois de mai. Et ces groupes de travail...
C'est elle, Naïma Mouchou.
...attention que les 50 propositions qui ont été faites soient conduites à leur terme et je vais, si elle l'accepte, confier une mission à votre collègue, Madame Mouchou, pour vérifier l'application effective des propositions qui ont été faites. Ça n'est pas une baguette magique. Nous n'avons pas la clé de toutes les questions qui se posent, parce que ces questions, elles sont pour l'essentiel dans la société française, dans sa désorganisation et dans ses dérives. Mais ce que la loi doit faire, c'est assurer que les principes sont respectés autant qu'on puisse identifier les manquements à ces principes. J'ajoute que je crois, même si les premières expériences n'ont pas été évidentes, qu'on doit travailler sur les portiques à l'entrée des établissements. Des portiques avaient été mises en place dans certaines régions françaises. Ils n'ont pas été maintenus partout, mais je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc, le gouvernement...
Les portiques, ce sont des détecteurs de métaux, hein, vous avez bien compris.
Dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements.
Donc le gouvernement veut expérimenter les portiques détecteurs de métaux à l'entrée des établissements.
La parole est à présent à monsieur Vincent Descoeur pour le groupe Droite Républicaine.
Alors Vincent Descoeur pour les Républicains. Est-ce qu'il va parler du même sujet ?
La présidente, en tout premier lieu, je voudrais exprimer la solidarité des élus de notre groupe, la Droite Républicaine, qui s'associe à l'hommage que vous avez rendu à nos trois compatriotes décédés dans des circonstances tragiques. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. J'y associe mon collègue Sébastien Martin. La décision du gouvernement de suspendre le dispositif MaPrimeRénov' dès le 1er juillet a suscité incompréhension et colère. Incompréhension et colère de dizaines de milliers de nos concitoyens engagés dans des projets de rénovation de leur logement, mais aussi des PME et artisans du bâtiment, un secteur déjà en souffrance, des collectivités locales qui sont impliquées dans l'animation et de toute une filière dont l'activité va être une nouvelle fois impactée par l'instabilité des politiques publiques. Cette décision soudaine, qui n'a fait l'objet d'aucune concertation, est en totale contradiction avec l'objectif affiché d'augmenter le nombre de rénovations thermiques pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Dois-je vous rappeler que cet outil, qui est un des rares dispositifs incitatifs, souffre déjà de dysfonctionnements et est entaché par le débat récurrent et non sans fondement sur la fiabilité des DPE, et que de ce fait, le dispositif MaPrimeRénov'.
Les DPE, ce sont les diagnostics de performance énergétique qui sont réalisés sur les logements.
Centralisés pour éviter les fraudes, mais en aucun cas une suspension brutale et non concertée. Comment les propriétaires, au premier rang desquels les plus modestes, et souvent en milieu rural, vont-ils dans ces conditions pouvoir répondre à l'injonction qui leur est faite d'améliorer la performance de leur logement sous peine de ne plus pouvoir les louer ? Monsieur le ministre, nous ne pouvons que souscrire à votre souci de lutter contre la fraude, mais il est important à cet instant que vous puissiez nous rassurer et surtout rassurer les porteurs de projets et les acteurs de la filière et nous confirmer que ce dispositif sera de nouveau fonctionnel. Et
donc grosse inquiétude de la part de Vincent Descoeur, député du Cantal, il a 61 ans et il pose une question sur le maintien du dispositif MaPrimeRénov' qui avait été menacé. On écoute la réponse du gouvernement.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Descoeur, vous l'avez rappelé, MaPrimeRénov' est une politique essentielle qui concourt à l'atteinte des objectifs de la loi climat. Elle est surtout, aujourd'hui, dans une forte dynamique, est devenue la principale aide à la rénovation thermique des logements, avec 3 fois plus de dossiers déposés cette année par rapport à l'année 2024, à la même époque, particulièrement sur les rénovations d'ampleur. C'est 2,5 millions de foyers qui ont pu, depuis 2020, bénéficier de MaPrimeRénov'. Je le redis ici, et j'y associe mon collègue Éric Lombard, puisque vous l'avez saisi à l'occasion de cette question, il l'a rappelé, le budget est sanctuarisé avec 3,6 milliards d'euros de crédits qui seront dépensés jusqu'au dernier centime. J'irai plus loin, nous allons même compléter avec plusieurs centaines de millions d'euros de certificats d'économie d'énergie l'effort qui sera constitué l'année prochaine aussi, si le budget sera adopté. En tout cas, la difficulté que vous rencontrez aujourd'hui sur vos territoires, c'est l'augmentation des délais de traitement. Cette augmentation s'explique par un afflux de dossiers que j'ai rappelé, une adoption aussi du PLF qui a démarré 2 mois plus tard et qui a engagé des retards. Ces délais de paiement sont aujourd'hui à peu près stables, à hauteur de 40 jours en moyenne. Par contre, on connaît un allongement de délai de 70 à 100 jours. Et nous constatons aussi, comme vous le savez, sur l'accompagnement Rénov, sur les rénos d'ampleur, une augmentation et une identification de fraude qui, avec le concours de la proposition de loi portée par Thomas Cazenave, va être prise en compte dès le 1er juillet de cet été par un plan d'action que nous montons conjointement avec les services de Bercy. Plusieurs milliers de dossiers seront pris en compte dans ce...
Merci Madame la Ministre.
Les ministres ont deux minutes pour s'exprimer, à l'exception du Premier ministre qui n'a pas de limite de temps de parole.
Pour le groupe La France Insoumise.
Sophia Chikirou pour les Insoumis, la députée de Paris.
Tout d'abord, j'exprime les condoléances du groupe La France Insoumise aux familles et aux proches, collègues des deux pompiers et de la surveillante qui ont perdu la vie. Et j'exprime notre solidarité pleine et entière. Monsieur le Premier ministre, avez-vous vu les images magnifiques des mobilisations dans tout le pays en soutien aux 12 membres d'équipage de la flottille pour Gaza ? Voyez-vous que partout dans le monde, sur tous les continents, les peuples se dressent pour dire stop au génocide ? Avez-vous lu les révélations de Disclose et celles de 10 associations telles que ATTAC, Avaz, Progressive Internationale sur l'ampleur des livraisons d'armes de la France à Israël? Depuis octobre 2023, la France a expédié plus de 15 milliards d'articles classés comme armes de guerre, bombes, grenades, missiles, pièces d'artillerie, en violation totale du traité international sur le commerce des armes. Avez-vous vu les dockers de Fos-sur-Mer bloquer les containers d'armes destinés à l'armée israélienne ? Voyez-vous comment chacun, là où il se trouve, tente d'agir pour sauver Gaza ? Je pense à ces professeurs du 20e arrondissement de Paris menacés de sanctions après avoir chanté la fraternité avec le peuple gazaoui. Je pense à Jacqueline, la grand-mère de Jana Abderrahim, deux enfants tués à Betlaya, qui a déposé plainte pour crimes de guerre et complicité de ces crimes. Et vous, monsieur ? Et vous, qu'avez-vous fait ? Qu'avez-vous dit ? Qu'avez-vous dénoncé pendant tout ce temps pour qu'enfin cessent les massacres à Gaza ? Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir peur de Benjamin Netanyahou ? Pourquoi le laisser nous menacer et nous insulter quand il traite mal Emmanuel Macron et à travers lui la France ? Avez-vous au moins un peu honte de ne rien faire ?
Sophia Chikirou, elle a 45 ans, elle est députée de Paris. Elle sera d'ailleurs la tête de liste des Insoumis pour les élections municipales à Paris. Et elle pose une question sur la flottille pour Gaza et sur globalement la situation à Gaza.
De vous dresser contre Benjamin Netanyahou pour exiger la liberté.
Madame la députée, merci beaucoup.
Et elle exige que la France se dresse contre Benjamin Netanyahou, vous l'avez compris.
Saint-Martin, ministre en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger.
Laurent Saint-Martin qui va lui répondre.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophia Chikirou. Que fait la France, dites-vous ? La France est le premier pays, dès le mois de novembre 2023, à avoir organisé les levées de fonds pour l'aide humanitaire à Gaza avec un milliard d'euros. Si la France n'avait pas été là, aucun pays n'aurait suivi à ce moment-là. Ce qui est sûr, Madame la députée, c'est que vous n'êtes jamais avare de buzz et de communication, exactement comme ces derniers jours l'ont encore démontré. Que fait la France ? Que fait la France, demandez-vous, si ressortissants français étaient présents sur le navire que vous avez cité ? Si ressortissants français étaient présents, la France a fait son travail, le Quai d'Orsay a fait son travail. Elle a averti ceux qui étaient sur ce navire des risques qu'ils encouraient. Elle a maintenu le lien avec les autorités israéliennes en permanence. Et elle a fait son travail de présence consulaire. Ce qui fait que depuis hier, les 6 ressortissants ont été en contact avec notre consul. Ce qui fait que toutes les familles ont pu être contactées grâce au personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous dénigrez et que vous empêchez de travailler. 45 000 mails ont été envoyés suite à vos pétitions qui ont complètement engorgé nos services de crise. Vous devriez avoir honte parce que pendant ce temps-là, nos services ne peuvent pas travailler à la protection de nos ressortissants.
J'ai pas suivi, il y avait une opération de floute par mail.
Qui ne fait que de la communication
sur les services d'urgence
à Gaza doit être acheminé. Tout blocage est une honte, comme c'est une honte que vous manipuliez en permanence la souffrance des Gazaouis à vos seuls intérêts politiciens.
Laurent Saint-Martin qui a choisi l'attaque pour répondre à Sophia Chikirou. Vous voyez les députés Renaissance qui se lèvent pour l'applaudir et qui défend l'action de la France dans cette période et sur ce dossier.
Allez, un peu de silence, la parole. Chut. Un peu de silence, s'il vous plaît. La prochaine question va être posée par Madame Naïma Moutchou du groupe Horizon et Indépendant.
Voilà, on va écouter Naïma Moutchou qui va probablement parler de l'agression au collège à nouveau.
Monsieur le Premier ministre, la société est sidérée de ce qui est en train de se passer. Les Français sont sous le choc et en colère quand chaque jour quasiment l'actualité leur jette à la figure un nouveau drame, une nouvelle violence. Chaque jour ou presque, des adolescents tuent à l'arme blanche. Des enfants et leurs surveillants sont poignardés jusqu'à l'intérieur même des établissements scolaires. Ce matin, c'est Cécile, assistante d'éducation, qui a perdu la vie. Hier, c'était Elias, Lorraine, Thomas, Sekou, Inès, Enzo, Mathis et tant d'autres encore, tous tués par des mineurs à l'arme blanche. Cette liste, Monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas des faits divers, mais les signes d'un effondrement. Nous voyons l'autorité reculer partout et la violence gagner partout. Nous voyons une partie de la jeunesse qui sombre, qui bascule dans la brutalité la plus décomplexée. Nous voyons des adolescents qui sortent armés pour commettre le pire. C'est tout sauf une crise passagère, c'est un fléau, c'est l'ennemi public numéro un. Voilà la conclusion de la mission que vous m'avez confiée sur ce sujet avec le préfet, M. François Ravier. Je vous ai rendu notre rapport le 28 mai dernier, qui n'est pas qu'un simple document, qui doit être un électrochoc, une prise de conscience et surtout l'opportunité d'agir. Il est temps, et c'est ce que nous préconisons, Monsieur le Premier ministre, d'interdire strictement la vente et la détention de tout type d'armes blanches par les mineurs. Il est temps d'imposer le déferrement systématique des auteurs, de prévoir des sanctions pénales beaucoup plus rapides et d'instaurer des peines minimales, de sécuriser nos établissements scolaires et d'améliorer la chaîne de signalement. Il est temps d'investir dans la prévention, dans la santé mentale des jeunes et dans la médecine scolaire, de s'attaquer aux conséquences délétères des réseaux sociaux en interdisant le téléphone portable à l'école.
Naïma Moutchou, elle a 44 ans, elle est députée du Val d'Oise du côté de Franconville. Elle est avocate au barreau de Paris en droit des affaires et en droit de la presse et elle pose une question sur les armes blanches, la prolifération des couteaux, notamment chez les adolescents.
Cela suffit.
Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Et c'est le Premier ministre en personne qui choisit de répondre. On écoute.
Merci,
François Bayrou.
Présidente, madame la députée, d'abord je veux vous remercier du travail que vous avez fait avec le préfet Ravier à la tête de cette commission qui, en à peine plus d'un mois, a réussi à construire en tout cas un plan de réponse à cette vague qui paraît irrésistible, tant les armes qu'on dit blanches sont faciles d'accès, ne serait-ce que dans les cuisines familiales. Et tant les adolescents qui s'y livrent semblent pris d'une contagion d'armement personnel dans les cartables des écoles. Ceci est insupportable. Et vous avez raison de défendre l'idée que vous avez contribué à nourrir et que nous construisons d'une réponse qui soit une réponse sans faiblesse, c'est-à-dire en interdisant le port de ces armes, en exigeant que lorsque ce port est constaté, il soit puni, et en faisant en sorte que nous construisions parallèlement une politique pour lutter contre la fragilité de ces adolescents et contre les accidents de santé mentale qui sont si fréquents. Mais vous avez raison aussi de dire que nous ne résoudrons pas toutes les questions sans réfléchir à la manière dont notre société se vit, comment elle partage des valeurs et des principes et comment on essaie de les transmettre aux plus jeunes et notamment aux élèves des collèges. Alors, votre question, c'était quand allons-nous entrer ? La réponse est maintenant. Et comme je l'ai indiqué, je vais vous demander d'accepter une mission que le gouvernement vous confiera pour que les préconisations...
Voilà, donc sur la base du rapport qui a été rendu par Naïma Moutchou et par un préfet, le gouvernement va la nommer à une mission pour vérifier l'efficacité et surtout l'application des mesures qu'elle a recommandées.
La parole est à présent à madame Mériana Red-Arbelot pour le groupe GDR.
Mériana Redarbelot.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre.
Pour le groupe communiste.
Une majorité d'États membres de l'ONU réinscrit la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes, témoignant que la décolonisation n'y est pas achevée. La décolonisation ne signifie ni en droit international, ni dans la perspective de ceux qui la réclament en Polynésie, une volonté de rupture avec la France. Dois-je rappeler que notre loi fondamentale, à travers son préambule de 46, dénonce la colonisation et prône l'émancipation des peuples dont il a pris la charge. L'État refuse d'entamer la discussion avec les forces polynésiennes à la tête du pays, ne pas aborder ces discussions alors qu'elles sont demandées depuis 12 ans dans la sérénité, renforce le sentiment que l'État ne s'intéresse aux réclamations que lorsqu'elles s'expriment dans la crise. Cela est vrai pour les territoires dits d'outre-mer, dont les sujets changent de place dans la pile de l'attention de l'État selon la gravité des urgences. Hier, à New York, le refus de la France de porter ce sujet devant la communauté internationale est réaffirmé par son représentant. Soit. Commençons alors à Paris et à Papeete. Monsieur le ministre, pourrions-nous rompre ce procédé malheureux et engager une première approche axée sur les modalités et le calendrier de discussion sur ce sujet ? À l'heure du sommet des océans, où les grands de ce monde s'accordent sur le rôle primordial des pays océaniques pour sauver la planète, qui, je le rappelle, pour les territoires dits d'outre-mer français, détiennent 97% de la surface maritime de la France, faisant d'elle la fière deuxième puissance maritime mondiale. À l'heure où les pollueurs prônent les meilleures postures à adopter à des territoires et des pays qui n'ont, eux, jamais mis la planète en péril, et dont les pratiques ancestrales, autrefois moquées, sont à présent plébiscité. N'est-il pas temps de tirer les leçons du passé et instaurer enfin respect, considération et humilité ?
Mériana Redarbelot, elle a 54 ans, elle est ingénieure en chef du contrôle de la navigation aérienne à l'aéroport de Tahiti Faa. Elle, depuis qu'elle a été élue en 2022, elle plaide pour la réparation des victimes des essais nucléaires. On écoute Manuel Valls, le ministre des Outre-mer.
Et je rappelle à la représentation nationale que la Polynésie française est le territoire qui dispose de la plus grande autonomie, de la plus grande étendue de compétences au sein de la République. La loi organique qui porte ce statut d'autonomie attribue, et vous le savez, la compétence de droit commun aux pays polynésiens français, l'État ne conservant qu'une compétence d'attribution. La position de la France reste inchangée. Elle conteste, et vous le savez aussi, la réinscription en 2013 de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, alors qu'elle l'a accepté, je l'ai souvent rappelé ici, pour la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas la même histoire. Et s'agissant du dialogue au sujet de la décolonisation, le choix juridique qui vient d'être fait en déposant des recours contre l'État rend évidemment plus difficile le chemin à prendre. Mais vous avez raison, plus que tout, le dialogue est important. J'ai rencontré hier et encore ce matin le président Boterson au pavillon France à l'UNOC. Il était présent, évidemment...
Moetai Brotherson, c'est le président de la Polynésie française.
Et je veux saluer ici la décision historique de création d'une aire marine protégée de plus d'un million de kilomètres carrés au Fenua. À bien des égards, Madame la députée, la Polynésie monte la voie et inspire le respect, pas seulement à la France, pas seulement en France, mais je l'ai constaté encore ce matin aux yeux du monde. Je serai en juillet prochain en Polynésie et nous allons poursuivre ce dialogue et d'une manière générale avec l'ensemble des Outre-mer, dans le respect, dans la considération, en innovant et en trouvant à chaque fois le bon chemin.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Madame la députée.
Monsieur le Ministre, je ne vous parle ni d'autonomie, ni d'indépendance, mais de décolonisation. Vous connaissez les erreurs du passé, dans le Pacifique et dans l'ensemble des anciennes colonies, océaniques comme continentales. Les enjeux environnementaux, économiques et géopolitiques sont immenses. Changer de regard, changer de discours.
Merci Madame la députée, merci.
Hop.
La parole est à Madame Martine Froger pour le groupe Piot.
Martine Froger, dis donc.
Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des collectivités. Aujourd'hui, partout en France, les CCAS, Centres d'Action Communale d'Action Sociale, se mobilisent. Leur colère est légitime. Alors que la précarité ne cesse de gagner du terrain parmi nos concitoyens, que l'isolement progresse et que les besoins sociaux explosent, le gouvernement envisage de rendre facultative la création des CCAS, aujourd'hui obligatoires dans les communes de plus de 1 500 habitants. Ces structures, nous les connaissons bien sur le terrain.
Les CCAS, ce sont les centres communaux d'action sociale.
Solidarité locale, domiciliation des sans-abri, instruction des aides sociales, soutien aux familles en difficulté. Supprimer cette obligation sans aucune concertation, sous couvert de simplification, reviendrait à faire porter aux communes déjà confrontées à une reddition constante de leurs moyens la responsabilité d'un choix impossible, celui de maintenir ou non un service public essentiel. En rendant facultatifs les CCAS, vous créez les conditions d'un renoncement progressif à la solidarité locale, au détriment des plus vulnérables. En les rendant facultatifs, vous faites le choix de fragiliser un réseau de proximité qui, depuis des décennies, a fait la preuve de son utilité et de son efficacité. Monsieur le ministre, ce projet suscite une profonde inquiétude chez les élus locaux, les professionnels de l'action sociale et les associations de terrain. Il soulève une question de fond. Comment le gouvernement peut-il prétendre renforcer la solidarité tout en affaiblissant les structures qui la rendent concrète, visible et accessible au quotidien?
Martine Froget, elle a 63 ans, elle est députée de l'Ariège, elle est directrice d'une association d'insertion dans le milieu agricole et elle a été élue avec le soutien de la section PS de l'Ariège, mais pas avec la direction nationale parce qu'elle est opposée à Olivier Faure, elle est opposée à la France Insoumise et donc elle a décidé de ne pas siéger avec les socialistes mais de siéger avec Lyot. C'est pour ça qu'elle est au sein du groupe Lyot.
D'avoir accès à un accompagnement social digne et efficace. Merci.
Et donc, vous l'avez compris, elle s'inquiète de la fin du caractère obligatoire de la création des centres communaux d'action sociale dans les communes de plus de 1500 habitants. On écoute François Rebsamen, ancien socialiste lui aussi.
Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Frogier, Martine Frogier, je vous remercie de m'avoir posé cette question parce que ma réponse va être très claire. Il n'a jamais été question de supprimer les centres communaux d'action sociale. Il n'a jamais été non plus question de rendre facultatifs les centres communaux d'action sociale dans les communes de plus de 1500 habitants. Vous l'avez indiqué, vous le savez, ils sont facultatifs dans les communes de moins de 1500 habitants. Ce qui avait été envisagé dans le cadre du reclore de la simplification que nous avons organisé en avril sous l'autorité du Premier ministre, que je remercie d'ailleurs, c'est de donner aux élus locaux un maximum de liberté dans leur mode de gestion et donc de renforcer en quelque sorte la libre administration des collectivités locales puisqu'il s'agit de l'article 72, vous le savez, de la Constitution. L'objectif était simple, consolider la démocratie locale en laissant les communes libres de leur choix. Mais devant les craintes exprimées, et je profite de votre question pour le dire, je vous annonce qu'aucun amendement du gouvernement ne sera déposé à propos des PPL de simplification qui sont en cours de navette en ce moment.
Les PPL, ce sont les propositions de loi.
Ne sera pas confié aux collectivités et nous ne supprimerons pas les CCAS. Merci de votre question.
Donc le ministre qui se veut rassurant, il n'y aura pas de suppression de CCAS.
La parole est à présent à Madame Sandrine Runel pour le groupe socialiste.
Sandrine Runel.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre des Solidarités, nous venons d'assister à un petit tour de passe-passe de votre collègue ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Mais je voudrais quand même revenir sur l'obsession gouvernementale de tout simplifier depuis des semaines et des mois. Dans chaque commune, dans chaque intercommunalité, les CCAS accompagnent nos aînés, les personnes isolées, les jeunes en rupture et les familles en difficulté. Celles qui se demandent dès le 15 du mois comment nourrir leurs enfants jusqu'au 31. Alors, Madame la Ministre des Solidarités, Monsieur le Ministre de l'Aménagement, vous devriez le savoir, la solidarité dans notre pays, ce n'est pas une option. Les centres communaux d'action sociale sont bien plus que des structures administratives comme vous semblez le penser. Ils incarnent le service public de proximité, l'engagement des élus locaux et des professionnels. Et quand on sait qu'un Français sur cinq a déjà poussé la porte d'un CCAS, que la pauvreté ne cesse d'augmenter dans notre pays, votre mesure, même si vous venez d'y renoncer, entraînerait une dégradation du service public. Je le redis à ce gouvernement, on ne vaincra pas la pauvreté en s'attaquant aux pauvres. Les CCAS comblent désormais jusqu'au manquement de l'État en assurant des compétences d'hébergement d'urgence que vous n'assumez même plus. Lyon, Strasbourg, Rennes, Paris, Bordeaux, Alfortville et tant d'autres, ce sont nous qui mettons les familles à l'abri, qui hébergeons les mineurs isolés et qui hébergeons les enfants à la rue. Et vous voulez supprimer les services de solidarité ? Quand allez-vous arrêter cette logique de démantèlement, de casse des services publics ? Vous vous attaquez à tout, tout le temps, aux chômeurs, aux malades, aux retraités, aux collectivités locales. Vous supprimez les ZFE, les ZAN, MaPrimeRénov' et maintenant les CCAS. Que restera-t-il de la solidarité après 10 ans de macronisme ?
Sandrine Runel qui s'en prend au gouvernement sur toutes ses ambitions de simplification qui touchent les centres communaux d'action sociale. Elle est élue à Lyon, elle a été adjointe de Grégory Doucet à la mairie de Lyon et elle a travaillé à la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale. Voilà pourquoi elle est très vocale sur ce sujet. On écoute à nouveau François Rebsamen.
Madame la députée Sandrine Runel. Ne trouvez-vous pas que votre question est légèrement excessive ? Nous ne vivons peut-être pas la même réalité, mais j'ai un avantage sur vous, si vous le savez, c'est que j'ai été maire pendant 25 ans et j'ai été confronté aux difficultés,
maire de Dijon.
Difficultés pour assumer l'ensemble des compétences de maire. Et quand je vois des déclarations nous demandant de conforter l'action sociale à travers la compétence sociale aux collectivités locales, permettez-moi de rappeler que la compétence des communes est une compétence générale, bien évidemment. Et le social en est le cœur. Et vous ne pouvez pas me faire dire le contraire. Et le gouvernement ne dira pas le contraire. Le social, c'est le cœur des compétences des communes. Et elles assument ces compétences avec des moyens qu'elles ont et que quelquefois l'État leur transfère. Et donc je ne vous laisserai pas laisser penser ici que nous abandonnons les pauvres en France. Les pauvres sont en difficulté en France. Il appartient aux communes de les aider avec le soutien de l'État. Voilà ce que je voulais vous dire. Il n'y aura donc pas de suppression des CCAS comme vous voulez le laisser penser. Il n'y aura pas de suppression de clauses de compétences sociales tout simplement parce que les communes, heureusement, qui sont le nerf de la France.
Donc les communes vont conserver leur clause de compétence sociale dans leur clause de compétence générale, évidemment, et il n'y aura pas de suppression de CCAS, mais pour autant, le caractère obligatoire de la création des CCAS va disparaître, si j'ai bien compris.
Merci, Madame la Présidente, chers collègues.
Christophe Marion.
Monsieur le Premier ministre, un drame, encore. Un drame comme un coup porté de plus à la République, dont l'école est le berceau. Ce matin, à nos gens, une surveillante est morte, alors qu'elle accomplissait simplement sa mission au service de la réussite de notre jeunesse. Au nom de mon groupe, je veux dire à la famille et aux proches de la victime toute ma solidarité et mes pensées. Je veux dire toute notre fraternité au personnel, professeurs, élèves endeuillés du collège et plus généralement à tous les personnels de l'éducation nationale que je sais abasourdis. Remercier enfin celles et ceux qui se sont mobilisés depuis ce matin aux côtés de la communauté éducative de Françoise Dolto, de même que la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, qui est sur place. Notre groupe s'est mobilisé pour notre jeunesse. Nous avons alerté depuis longtemps sur la diffusion et l'intensification de la violence chez nos jeunes. Nous avons œuvré avec Gabriel Attal pour renforcer leur sécurité en portant une proposition de loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Et la question des mineurs sera au cœur des réflexions du garde des Sceaux à l'occasion de la réforme de la politique pénale qu'il souhaite mener et que nous accompagnerons. La ministre de l'Éducation a aussi pris des mesures en mettant en place des contrôles aléatoires de sacs et nous constatons aujourd'hui, malheureusement, qu'ils ne permettent pas d'éviter le pire. Alors ma question est simple, monsieur le Premier ministre, au-delà de l'émotion qui nous étreint tous en cet instant, quelles sont les décisions que vous envisagez de prendre pour éviter qu'un tel drame ne survienne encore et encore ? Certes, il faut faire preuve de fermeté pour dissuader, car la banalisation de la violence ne peut être tolérée en République.
Christophe Marion, il a 52 ans, il est député du Loir-et-Cher, député Renaissance, il est professeur agrégé d'histoire, il est historien auprès de l'Université de Tours et de l'École nationale des Chartes.
Monsieur le Premier ministre, vous ferez
et il pose une question à son tour sur les insécurités, sur l'insécurité au collège, en l'occurrence avec les couteaux qu'ont les élèves.
Vous agissiez, nous serons à vos côtés pour ce faire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice et Garde.
Alors, le ministre de la Justice qui va répondre.
Merci, madame la présidente. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, je veux d'abord me fondre dans les propos, évidemment, par définition et par émotion, par volonté de monsieur le Premier ministre pour la famille, pour cette femme et pour tous les citoyens qui voient en effet, alors que les gendarmes, alors que l'éducation nationale faisait ce travail de contrôle, se voient déferler cette violence, et notamment cette violence née d'individus très jeunes, non connus des services ni de justice ni de police, et qui à 14 ans en effet sont capables manifestement de planter à plusieurs reprises des couteaux dans le dos de leurs surveillants. En absence de Madame la ministre de l'Éducation nationale, qui est sur les lieux, de M. le ministre de l'Intérieur, qui est retenu pour le drame qui touche le dos de sapeurs-pompiers, je vais d'abord dire que, dès mon arrivée place Vendôme, sous l'autorité de M. le Premier ministre, j'ai pris une circulaire de politique pénale insistant en priorité, elle ne fait que 2 pages et demie, sur les violences faites aux personnes, notamment dans les établissements scolaires. Je veux dire que nous avons, dès l'arrivée de ce gouvernement, soutenu la proposition de loi du président Attal qui, grâce à votre intervention et grâce au travail que nous avons fait ensemble, permet désormais, on attend la décision du Conseil constitutionnel, la comparution immédiate appliquée désormais aux mineurs, l'exception d'atténuation de peine pour les mineurs de 16 ans et plus, et la responsabilisation surtout des parents qui étaient en effet très absents de notre code de justice des mineurs. Par ailleurs, nous avons rajouté à la demande du gouvernement les mesures d'éducation judiciaire qui sont non respectées et qui désormais doivent l'être sous peine de sanction, le couvre-feu généralisé, ce qui n'était pas le cas dès la sortie de la classe, et l'expérimentation du doublement des assesseurs dans les tribunaux pour donner plus de place à la société dans la décision. Mais comme l'a dit M. le Premier ministre, les propositions de Mme Moutchou seront suivies par la chancellerie, que ce soit le déferrement systématique...
La chancellerie, c'est le surnom du ministère de la Justice.
...de la PJJ et de la police en charge des mineurs, la modification du CJPM, comme nous l'avons évoqué dans les débats, et la création de circonstances aggravantes en cas de détention d'armes blanches. Cela se fera dès aujourd'hui avec la loi Attal, et dès demain, dès que nous avons un véhicule législatif que la chancellerie soutiendra.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à M. Benjamin Lucas Lundy pour le groupe Écologiste et Social.
Benjamin Lucas Lundy, le socialiste.
Madame la Présidente, M. le Premier ministre, pourquoi M. Netanyahou...
Non, il n'est pas socialiste, pardon, il est avec les écolos.
Du monde,
il fait partie de Génération avec Benoît Hamon.
...de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments. Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation. Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux quatre coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « qu'avez-vous fait ?». Notre génération sera jugée par la prochaine et par l'histoire sur ses actes. Alors, aux actes maintenant. Allez-vous reconnaître l'État de Palestine et avec lui la dignité de tout un peuple ? Allez-vous décider de sanctions dissuasives contre Israël, d'un embargo sur les armes, de la fin de toute forme de complicité par l'inaction ? Monsieur le Premier ministre, la République française va-t-elle se hisser là où l'appellent ses valeurs, du côté de l'humanité ?
Benjamin Lucas Lundy, il a 34 ans, il vient du Parti Socialiste, il a été président du mouvement des jeunes socialistes, il était très proche de Benoît Hamon.
Merci,
et il l'a suivi à Génération, dont il a été le co-secrétaire national. On écoute la réponse du gouvernement.
Nous pouvons partager un certain nombre de vos propos, considérant le caractère insoutenable de ce qui se passe à Gaza et le caractère honteux et absolument intolérable de l'incapacité à laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Mais ne tombez pas dans le panneau de la communication, notamment de cette flottille de Gaza. Je l'ai dit tout à l'heure, la France a été très claire. Nous avons d'abord... Dès que nous avons eu connaissance de ce projet, prévenu les 6 ressortissants français qui étaient sur ce navire. Nous avons été en lien constant avec les autorités israéliennes et aussitôt l'arraisonnement du navire fait, notre consul a fait son travail et a été en présence consulaire avec l'ensemble des ressortissants. À ce stade, 2 ont fait le choix d'un retour volontaire en France. 4 l'ont refusé et devront donc comparaître devant la justice israélienne avant d'être expulsés. C'est leur choix et nous avions donné toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Mais je vous sais trop attentif à la souffrance des Gazaouis pour ne pas nous appesantir sur ce coup de com' et cet énième coup de com' de certains. Oui, la France est au rendez-vous, et je le répète, dès le mois de novembre 2023, a organisé les levées de fonds pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Vous ne pouvez pas reprocher ni au président de la République, ni au gouvernement français de vouloir non seulement la paix, mais toujours avancer vers la seule solution qui vaille, la solution à deux États.
Laurent Saint-Martin qui dénonce un coup de communication de cette flottille pour Gaza.
Monsieur le ministre, je parlais de la génération qui arrive, je veux lui dire que j'ai honte. J'ai honte de la façon dont vous organisez le débat public sur cette question tragique pour l'humanité. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza. Incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas. Vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous.
Je vous remercie, monsieur le député.
Standing ovation de toute la gauche pour Benjamin Lucas lundi, qui réclamait une réponse sur la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Charles Alloncle,
permettez-moi avant
pour le groupe UDR.
C'est un joyeux anniversaire. Un an déjà, un an de Front républicain, un an d'alliance avec la France insoumise, sans qui vous ne seriez pas avec nous aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi à Laurent Wauquiez, à Mathilde Panot, à Sandrine Rousseau. Et surtout, n'oublions pas celui sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Joyeux anniversaire à Gabriel Attal, castor le plus besogneux du barrage républicain, grand sauveur de notre démocratie, du moins celle qui s'arrête à la porte des bureaux de vote. Dans tout le pays, un an après, vous l'entendez, les Français vous disent merci. Merci d'abord pour cette assemblée plus représentative. Nos débats bénéficient d'un regard expert et inclusif. Sur ces bancs, on parle narcotrafic avec des dealers, on discute de justice avec des consommateurs, on débat même de sécurité avec des triples fichiers S. Merci aussi pour vos réformes majeures. Taille des bouteilles d'eau, panne d'ascenseur, grossophobie, chemsex. Tous ces fléaux qui font exploser les chiffres de l'insécurité. Et pendant que vous œuvrez pour l'histoire, le réel, lui, frappe malheureusement à la porte. Cette porte, c'est celle du collège Françoise Dolto, qu'une surveillante ne franchira plus, poignardée à mort ce matin par un élève de 14 ans. Merci donc à votre barrage de nous avoir évité le pire. L'union des droites, de l'ordre à l'école, des peines exécutées, des professeurs en sécurité. Alors, monsieur le Premier ministre, maintenant que la bougie est soufflée...
Charles Alloncle, il a 31 ans, il est cofondateur et gérant de Blanc, qui est une start-up de services aux commerçants.
Je vous remercie.
Député de l'UDR, il a été président des Jeunes avec Sarkozy par le passé, avant de rejoindre Éric Ciotti. Et il a fait une question ironique sous forme de joyeux anniversaire un an après la dissolution. Et il s'en est pris au barrage républicain qui, selon lui, lie dans un partenariat les macronistes et la gauche.
On se doit d'abord de défendre la démocratie. Et défendre la démocratie, ça passe pas par l'auto-dénigrement du Parlement. Il y a un an, le président de la République a choisi de redonner la parole aux Français. Et je crois qu'il faut respecter cette parole. Quelle était la question qui leur était posée? Est-ce qu'ils allaient choisir de donner une nouvelle majorité évidente et écrasante au Parlement, ou est-ce qu'ils allaient au contraire choisir d'en faire le miroir de leur propre diversité? Ils ont choisi la diversité. Et je veux rendre hommage aujourd'hui aux parlementaires que vous êtes pour le travail qui a été effectué depuis dans un esprit de compromis pour avancer. Après avoir doté la France d'un bloc de textes financiers et budgétaires, vous avez voté des textes agricoles, puis des textes régaliens sur le narcotrafic et sur la justice des mineurs, puis des sujets sociétaux sensibles dans lesquels tout le monde a salué l'attitude de l'Assemblée nationale, des textes économiques et sociaux. Et à la fin de cette semaine, on aura terminé le projet de loi de simplification de la vie économique. Ce sera l'énergie au mois de juin, avec deux lois Mayotte, sous l'autorité du ministre d'État et du Premier ministre, qui auront encadré cette action du gouvernement. Le Parlement n'a jamais été aussi puissant, pour peu qu'il travaille dans un esprit de compromis. Et au moment où nous réfléchissons les uns les autres à l'évolution de nos modes de scrutin, je crois que ça devrait nous inspirer.
Je suis presque d'accord avec lui sur le Parlement est puissant, mais sa puissance, il la tient de l'affaiblissement du gouvernement, paradoxalement.
La parole est à présent à Monsieur François Piquemal pour le groupe La France Insoumise.
François Piquemal, le député insoumis.
Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie. Un petit point météo pour débuter, si vous le voulez bien. Soleil et chaleur pour tout le monde. Petit risque orageux toutefois en fin de matinée. 31 degrés de moyenne avec des pics attendus à 21 degrés le matin à Nice et 38 degrés l'après-midi à Agen. Des températures anormalement élevées pour un mois de juin, vous en conviendrez, mais qui vont être de plus en plus courantes avec le dérèglement climatique. On espère ainsi, Madame la Présidente, que contrairement à plus de la moitié des Français, vous ne vivez pas dans un logement qui vous expose à la chaleur. Ça s'appelle une bouilloire thermique. Si vous ne savez pas comment faire, Madame la Présidente, faites comme les Français. Ne comptez que sur vous-même et pas sur le gouvernement qui vient de décider de suspendre le dispositif MaPrimeRénov. Il avait déjà fait baisser son budget. Cette fois, il le suspend notamment, je cite, « en raison de l'afflux des demandes ». Tiens donc. Et oui, pourquoi continuer un dispositif qui marche enfin en Macronie? Quelle drôle d'idée! Aussi, les organisations écologistes vous suggèrent donc une proposition audacieuse, Monsieur le Ministre, mais je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre. Peut-être qu'au lieu de suspendre, la solution serait d'employer et de former des agents pour instruire les dossiers de rénovation et lutter contre les éventuelles fraudes. En attendant, Madame la Présidente, si parmi vos proches, vous avez des personnes âgées, des enfants, des personnes qui ont des problèmes de santé, mettez-les à l'abri et protégez-les comme vous pouvez ou demandez à M. Bayrou s'il compte relancer la production d'éventails. Si, comme Alex, patron d'une PME dans le bâtiment à Toulouse, vous avez la moitié de vos chantiers qui sont annulés, eh bien, faites comme tout le monde, licenciez et débrouillez-vous.
François Piquemal, il a 40 ans, il est député de Haute-Garonne du côté de Toulouse. Il est professeur de lettres et d'histoire-géographie dans un lycée pro du quartier du Mirail à Toulouse. Mais c'est surtout l'ancien porte-parole du droit au logement à Toulouse. Pendant 10 ans, il a été très très engagé. Il a même écrit un bouquin qui s'appelle Les Oubliés, un bouquin sur le mal-logement. Et donc, il est très bien placé pour poser une question sur MaPrimeRénov. On écoute la réponse du gouvernement.
Monsieur le député Piquemal, je vais essayer de compléter mon propos de tout à l'heure pour vous dire que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le gouvernement a certainement pas l'intention, comme je l'ai entendu, de supprimer MaPrimeRénov. Il a l'intention de prendre à bras le corps, pour être au rendez-vous des ambitions et de continuer l'accompagnement des ménages, de régler trois sujets qui sont apparus cette année. Une accélération significative avec un triplement de dossiers sur la rénovation globale. 2 mois de retard au démarrage suite à un vote du budget tardif. Et troisièmement, la PPL CASNAV qui est maintenant à notre disposition et qui va nous permettre de travailler sur un nouveau type de fraude, vous le savez si vous êtes en lien avec le terrain, qui prend une part significative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que tous les dossiers déposés d'ici le 1er juillet seront instruits et payés s'ils sont conformes et ne sont suspects d'aucune fraude. Ça, c'est clair. Deuxièmement, dès le 17 juin, nous allons réunir tous les acteurs du secteur pour travailler aux modalités de cette suspension temporaire qui prendra fin mi-septembre et dont l'objet, vous l'avez compris, c'est de réduire les délais d'instruction au bénéfice de nos concitoyens, mais aussi des entreprises qui attendent trop longtemps aujourd'hui, de régler très fortement et très fermement les fraudes. Et il y aura des sanctions très fortes qui seront données. Et enfin, effectivement, d'avoir un dispositif qui, pour la fin d'année, soit avec 3,6 milliards d'euros maintenu, conforté par des C2E, des certificats d'économie d'énergie, et avec des fraudes qui auront été maîtrisées et un calendrier que nous souhaitons maintenant beaucoup plus régulier. Je vous remercie.
Merci. Voilà, Valérie Létard qui veut tordre le cou à la rumeur comme quoi c'est la fin de MaPrimeRénov.
Pour le Rassemblement national.
Antoine Goliot.
Merci, Madame la Présidente.
Pour le RN.
La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Depuis le début de l'année, jamais autant de migrants n'ont traversé la Manche à bord de small boats. Les autorités anglaises ont récemment enregistré un pic record avec près de 1200 migrants arrivés en une seule journée. Fin mai, un naufrage a eu lieu près de Boulogne-sur-Mer dans ma circonscription. À Velette-sur-Mer, en Normandie, un groupe de migrants est intercepté 2 fois en moins de 24 heures. À proximité de Dunkerque, on enregistre également un naufrage. La litanie de ces faits peut être encore longue, malheureusement. du Dunkerquois jusqu'aux plages normandes, en passant par le Calaisis et le Boulonnais, notre littoral est pris en otage par les flux de migrants et les passeurs. Nos côtes sont transformées en rampes de lancement de l'immigration illégale vers l'Angleterre. Malgré les millions d'euros versés par le Royaume-Uni et les moyens humains mobilisés par l'État, les réseaux de passeurs agissent toujours en toute impunité. Et les départs se poursuivent presque chaque nuit sous les yeux des habitants de ma circonscription. Dans nos communes littorales, la situation est devenue ingérable. Tension avec les habitants, insécurité, épuisement des forces de l'ordre, transport en commun surchargé, nuisances pour les pêcheurs et le tourisme local. Permettez-moi d'avoir une pensée pour nos gendarmes et policiers régulièrement agressés et aussi pour toutes les vies perdues dans les traversées. Nous ne pouvons continuer de simplement constater l'échec de l'État en matière de contrôle de l'immigration. Au Rassemblement national, nous rappelons depuis des années la nécessité de rétablir une maîtrise de nos frontières nationales. Alors, Monsieur le Ministre, qu'allez-vous entreprendre pour protéger les habitants de l'immigration massive, démanteler les filières et mettre fin à ces traversées illégales qui défient chaque jour notre autorité.
Antoine Goliot, il a 38 ans, il est député du Pas-de-Calais du côté de Boulogne-sur-Mer. Il est technicien et il milite au Front National depuis 2009.
Auprès du ministre de l'Intérieur.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Antoine Goliot, je voudrais rappeler tout d'abord que le renforcement continu du dispositif de protection autour des infrastructures ferroviaires, mais également portuaires dans le Calaisis, a été efficace, mais malheureusement, il est contrebalancé par les small boats et les taxi boats qui sont devenus le principal moyen de franchissement. Rappelez que l'attractivité du Royaume-Uni à l'égard de ces populations ne change pas. Elle est constante et malheureusement depuis de nombreuses années, malgré les efforts budgétaires que vous avez vous-même rappelé, d'ailleurs des Britanniques, à 540 millions d'euros. Depuis la fin du mois d'avril dernier, une compagnie de police nationale est déployée pour 3 mois. Un escadron de gendarmerie mobile est dédié. Au total, ce sont plus de 1200 forces de l'ordre qui sont déployées sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. Les résultats de 2024 et ceux de 2025 se situent à un niveau assez élevé. En 2024, malgré un taux d'interception de 58%, 694 traversées ont réussi et au 30 mai 2025, 244 ont réussi. Cependant, les moyens sont malgré tout toujours mobilisés. D'abord, la poursuite d'une stratégie commune est essentielle avec les Britanniques. Elle se continue, elle est en train de se renégocier jusqu'en pour 2026. Et au niveau du ministère de l'Intérieur, tous les renforts annoncés au mois de novembre dernier l'ont été. 75 agents supplémentaires de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières. Le renforcement du commissariat de Calais, de Dunkerque, de 10 et 15 effectifs et les enquêteurs supplémentaires, 14 de plus, sont mises à disposition. La première cellule zonale d'échange de renseignements sur le trafic de migrants est installée depuis le 27 mai dernier. Évidemment qu'elle permettra de mobiliser les moyens des services de renseignement pour mieux entraver les réseaux de passeurs qui restent le problème majeur, à savoir que ce sont principalement ces réseaux qui accompagnent et permettent à ces migrants qui ne veulent pas rester en France pour aller en Grande-Bretagne et de stationner à Calais en particulier, mais sur l'ensemble de votre territoire. Enfin, la lutte conjointe en amont contre l'immigration régulière transmanche et les réseaux de passeurs s'intensifie,
merci,
je viens de vous
beaucoup,
le dire.
Monsieur le
Il conviendra
ministre.
Également,
merci,
vous, pour répondre à votre
ministre.
Question sur la protection de nos frontières, je rappelle
merci,
que la
non,
France...
Merci, vous ne rappelez plus rien. On est à plus 11 secondes une prochaine fois. La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste.
Merci madame la présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances. Question claire, réponse claire, entendez-vous augmenter les taux de TVA ?
Je vous remercie monsieur le député.
Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu.
La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre des Finances et de l'Économie.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Philippe Brun.
Augmentation de la TVA sociale, ok, d'accord.
Deux minutes. Pour dire d'abord quel est notre sujet principal, et le Premier ministre le dit depuis longtemps, nous avons 3300 milliards d'euros de dettes, et dans quelques années, nous allons verser à nos créanciers 100 milliards d'euros d'intérêts. Nous avons aussi un problème de compétitivité, ce qui fait que nous avons décidé de maintenir les prélèvements fiscaux et les prélèvements sociaux au niveau où ils sont. Le reste appartient en fait largement à la représentation nationale et aux partenaires sociaux. Je crois que vous faites allusion peut-être, si j'ai bien compris, à la proposition du président de la République de réfléchir au financement de la protection sociale. Cette question, elle ne s'adresse pas au gouvernement, elle s'adresse aux partenaires sociaux, et il leur appartiendra, si la ministre les saisit ou s'ils se saisissent eux-mêmes, parce que tout ça est sous l'autorité de ma collègue Catherine Vautrin, de réfléchir...
Ministre des Solidarités.
...de financer notre protection sociale. Parce que, en effet, la sécurité sociale repose presque exclusivement sur le travail, que ce soit versé par les salariés ou par les entreprises. Je rappelle d'ailleurs qu'une part importante de la sécurité sociale est financée par la TVA. C'est petit rappel en passant. Et donc, une réflexion peut s'ouvrir sur un réaménagement à l'intérieur de ces équilibres. Mais, comme l'a dit le Premier ministre à de nombreuses reprises, nous allons jusqu'au 15 juillet, jusqu'à la mi-juillet, écouter les propositions des uns et des autres, et ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement prendra des décisions à la suite des arbitrages du Premier ministre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député.
Monsieur le ministre de l'Économie, je tiens solennellement à vous dire ici, au nom des députés socialistes, que nous opposerons de toutes nos forces à cette augmentation de la TVA que vous préparez. Nous y opposerons pour plusieurs raisons. Cette TVA sociale, elle aurait d'abord pour premier impact de frapper les plus pauvres. C'est un impôt sur les bas salaires, c'est un impôt sur les petits retraités, c'est un impôt sur les inactifs et sur tous ceux qui sont frappés par la hausse des prix. Plus 25% d'augmentation des prix alimentaires depuis maintenant 3 ans et vous voulez à nouveau augmenter les prix pour l'ensemble des Français. En plus d'être une mesure injuste, c'est une mesure inefficace économiquement. L'OFCE, qui a fait une étude récente, montre qu'elle détruirait 16 000 emplois en touchant très nettement la consommation des Français à un moment où l'OCDE elle-même révise les prévisions de croissance de la France à 0,6, là où le premier budget que nous n'avions pas voté les prévoyait à 1,1%. La TVA sociale, c'est une TVA antisociale. Et nous, les socialistes, l'avons annulée en 2012 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, là où le gouvernement de Nicolas Sarkozy l'avait mise en place. D'aucune manière, les socialistes, dans la préparation de ce budget, accepteront que les classes populaires, que les classes moyennes, que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre soient mis à contribution. Et au contraire, les baisses d'impôts de plus de 60 milliards d'euros par an que vous avez mises en place depuis 2017 doivent aujourd'hui être revues. Ce sont toujours les mêmes qui payent dans notre pays. Et aujourd'hui, nous disons plus que jamais que face aux grandes difficultés financières que rencontre notre pays, les plus aisés doivent être mis à contribution.
Philippe Brun, le socialiste de l'heure du côté de Louviers, 32 ans.
Monsieur le député Philippe Brun, mon rebond sera aussi rapide que votre question initiale. Nous avons fait le choix avec le Premier ministre, avec la ministre du Travail, de faire confiance aux partenaires sociaux sur la réforme des retraites et nous allons continuer. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et le gouvernement qui renvoie vers les partenaires sociaux sur cette éventuelle TVA sociale.
Présent, Madame Anaïg Le Meur pour le groupe EPR.
Anaïg Le Meur.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Valérie Létard, ministre déléguée chargée du logement. Madame la ministre, depuis 2020, le dispositif MaPrimeRénov' a permis la rénovation de 2,5 millions de logements. Il s'est imposé comme un pilier essentiel de notre politique de transition énergétique, tout en contribuant activement à la dynamisation de l'emploi dans le secteur du bâtiment. Nous saluons votre engagement sur ce dossier stratégique. Cependant, depuis l'annonce récente de sa suspension temporaire, avec mes collègues Ludovic Mendès et Bastien Marchive, nous faisons face à une forte inquiétude remontée du terrain qui se décline en 3 alertes majeures. Du côté des entreprises du bâtiment, confrontées à des encours importants, c'est un climat d'incertitude qui s'installe. Quelles garanties pouvez-vous leur apporter pour assurer la continuité et la pérennité du dispositif afin d'éviter un coup d'arrêt brutal à la dynamique engagée avec des conséquences que cela implique pour des milliers d'emplois? Du côté des copropriétés, nombreuses sont celles qui attendent l'application des mesures prévues par la loi sur les diagnostics de performance énergétique, toujours en attente d'inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée. Enfin, sur le plan budgétaire, alors que le dispositif a longtemps été sous-utilisé, il est aujourd'hui victime de son succès et de sa complexité. Au-delà de la gestion des fraudes, dispose-t-on encore de marges de manœuvre suffisantes pour relancer MaPrimeRénov' à la hauteur des besoins exprimés? Madame la ministre, dans un contexte où les impératifs écologiques et sociaux n'ont jamais été aussi pressants, Nous ne pouvons nous résoudre à voir MaPrimeRénov' devenir un nouveau rendez-vous manqué. Comment entendez-vous limiter les incertitudes actuelles, clarifier le calendrier à venir et garantir que ce dispositif demeure un outil fiable, ambitieux et accessible à toutes les Françaises et tous les Français? Je vous remercie.
À nouveau une question de la part d'Anaïs Le Meur sur MaPrimeRénov'. Elle a 51 ans, elle est députée du Finistère. Merci, du côté de Quimper. Elle est masseuse kinésithérapeute et formatrice spécialisée en appareillage orthopédique.
Me permettre de préciser mes propos.
Alors Valérie Létard qui va à nouveau répondre sur MaPrimeRénov'.
En tout cas de MaPrimeRénov', et non la fin, mais bien la volonté de mieux prendre en compte encore cette montée en puissance qui montre bien que cette politique était vraiment adaptée et en tout cas correspondait à un besoin significatif, celui d'accompagner les ménages dans la résorption des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des passoires thermiques qui impactent les ménages. Alors, pour rassurer bien évidemment les entreprises, dire, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais préciser que le 17, c'est avec le secteur que nous allons travailler à cette période intermédiaire, l'anticiper et préparer le retour mi-septembre à la bonne gestion de ce dispositif avec plus de rapidité, une réduction des délais d'instruction, parce que c'est à ça aussi que correspond cette pause. La fraude, la réduction des délais qui pèsent trop et sur les usagers et sur les entreprises, et construire ces nouvelles modalités avec les acteurs du secteur. Ensuite, cette fermeture, vous avez demandé les copropriétés. Évidemment, s'il y a un sujet sur lequel les choses sont plus compliquées encore qu'ailleurs, ce sont les copros. Pour cette raison, nous n'arrêtons pas le dispositif sur les copropriétés, nous le maintenons, il se travaille en plus sur plusieurs années, c'est indispensable. Nous avons besoin, vous avez raison de le rappeler, Madame la députée, que le texte qui a été porté ici par Monsieur Marchive, qui a été adopté au Sénat, porté par Madame Gacquerre, puisse revenir à l'ordre du jour de cette Assemblée pour permettre de maintenir le calendrier de la loi climat, tout en laissant la capacité des propriétaires d'avoir le temps de mettre en œuvre les travaux. À partir du moment où ils ont voté, ils ont décidé ces travaux, ils auront des délais grâce à cette proposition de loi qui permet de concilier le temps nécessaire pour les travaux, leur financement et la tenue des objectifs de la loi climat.
Merci,
nous
Madame
voulons
la
mettre
ministre.
Tout cela en œuvre le plus vite possible.
Merci beaucoup, Madame la ministre.
Valérie Létard qui se bat aujourd'hui contre le titre qu'on a vu dans la presse de suppression de MaPrimeRénov'.
Monsieur le ministre,
on écoute Sandrine Rousseau.
Que vaut la santé de nos enfants? Que vaut notre santé à tous et toutes? Je ne parle pas ici des chiffres de la sécurité sociale, ça je sais que ça vous inquiète. Ah là là, attention, les chiffres de la sécurité sociale dérivent. Alors là, vous faites des réunions, vous vous inquiétez, vous le dites partout, il va falloir faire des efforts. Vous prenez les choses très au sérieux. Mais les cancers des enfants, mais les maladies cardiovasculaires, mais les cancers digestifs, notamment celui du pancréas qui explose, d'où viennent-ils? Quand la FNSEA met ses tracteurs devant l'Assemblée, là aussi vous êtes inquiets, très inquiets même. Mon Dieu, il faut sauver les agriculteurs, comme si sauver l'agriculture, c'était empoisonner les sols et les eaux. Comme si soutenir les agriculteurs, c'était les rendre dépendants des industries agro-chimiques comme Bayer, Monsanto. Comme si l'agriculture biologique n'avait pas besoin d'être soutenue. Le cadmium est cancérigène et il est présent dans les engrais phosphatés. 36% des enfants de moins de 3 ans en France dépassent l'exposition aux doses journalières recommandées. La contamination se fait via les céréales, le pain, les pâtes, les pommes de terre, soit les aliments de base. D'une main, vous voulez réduire les remboursements des maladies chroniques, faire des économies, et de l'autre, vous autorisez les pesticides. D'un côté, vous vous alarmez de la baisse de la natalité, et de l'autre, vous autorisez l'acétamipride et les engrais au cadmium qui troublent l'érection et la fertilité. Monsieur le ministre de la Santé, quand comptez-vous discuter sérieusement avec votre collègue de l'agriculture? Quand comptez-vous enfin tordre le bras au lobby? La loi du plomb est une trahison de l'intérêt commun. Monsieur le ministre, nos cancers sont politiques, notre santé est politique. Quel est votre plan de réduction de l'exposition des Français et Françaises au cadmium et au...
Sandrine Rousseau, elle est députée de Paris dans le 13e arrondissement. Elle est enseignante-chercheuse au sein d'un centre de recherche en sociologie et en économie. Et elle pose une question sur la pollution agricole et les pesticides.
antinomique de prendre soin du budget de la sécurité sociale et de prendre soin de notre population d'une façon générale. Le cadmium n'est pas un des métaux lourds dont on parle le plus souvent. Donc je vous remercie pour votre question, tout comme je remercie Le Monde d'avoir fait un article fort intéressant le 6 juin dernier. Maintenant, je vais vous répondre sur un certain nombre de chiffres factuels. L'exposition aux métaux lourds peut avoir un impact sur la santé. Vous le savez parfaitement, et notamment le cadmium sur l'impact sur les os, l'impact sur les reins, sur les maladies cardiovasculaires, ayez le constat que je peux m'occuper des maladies cardiovasculaires également, et sur les cancers, cancer du sein, cancer du poumon et cancer du pancréas, dont le nombre a augmenté par 4 depuis 30 ans. Donc je suis très heureux que nous ayons pu inscrire le registre des cancers dans cet hémicycle, qui sera inscrit le 23 juin prochain. J'en remercie le ministre en charge des relations avec le Parlement et la présidente de l'Assemblée nationale. Concernant le cadmium, je reviens sur 4 points importants. Tout d'abord, la surveillance, madame la députée, avec l'étude Alban que j'ai demandée, qui a débuté le 10 juin avec Santé publique France et l'ANSES pour justement étudier les liens entre l'environnement, la nutrition et la santé. C'est une étude d'imprégnation. Deuxième point, les normes, les 20 mg par kilo sur les engrais. Je serai particulièrement vigilant sur l'arrêté que doit prendre le ministère de l'Agriculture sur ce sujet, comme l'ont fait d'autres pays comme la Finlande, la Pologne ou la Roumanie. Troisième point, sur le dépistage. Les URPS médecine libérale ont fait remonter l'intérêt d'un dépistage. Ce dépistage est remboursé à l'hôpital et il le sera à l'automne en médecine de ville. Enfin, dernier point, la mobilisation avec les parlementaires, avec les professionnels de santé, avec les citoyens pour justement inciter la diversification du mode alimentaire, de favoriser, vous l'avez dit, les aliments bio puisqu'ils ils ont une teneur de 50% inférieure en cadmium et surtout de favoriser l'alimentation saine.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole...
Réponse technique.
À présent, madame Sophie Maître pour le groupe démocrate.
Le groupe démocrate, c'est le groupe du MoDem de François Bayrou.
Je voulais m'associer avec mon groupe aux peines des familles des deux jeunes pompiers, ainsi qu'à celle de la famille de la jeune femme tuée ce matin, elle aussi, dans l'exercice de ses fonctions. Ma question s'adresse à madame la ministre du Logement. Le gouvernement a récemment confirmé la suspension jusqu'en septembre de MaPrimeRénov' afin de maîtriser les dérives budgétaires liées à un excès de pratiques frauduleuses. Nous soutenons votre volonté de revoir le fonctionnement de MaPrimeRénov'. Cela doit d'ailleurs ouvrir la porte à une réflexion plus large à laquelle notre groupe s'associera. Nous souhaitons en effet accélérer considérablement la rénovation énergétique pour des raisons, des questions environnementales, mais aussi de pouvoir d'achat et de justice sociale. Et ce travail ne peut se faire sans prendre en considération l'ampleur de la dette budgétaire de notre pays qui s'est creusée depuis des décennies. Au-delà des clivages idéologiques, nous en appelons à la responsabilité des décideurs publics. Nous devons ainsi être particulièrement soucieux de l'utilité et de l'impact réel de chaque euro de dépenses publiques. Les aides à la rénovation énergétique doivent ainsi tenir compte de l'ampleur des travaux et des revenus des ménages, sans provoquer d'envolée ou de surenchère des factures. Ces aides publiques doivent soutenir les efforts, sans créer d'effet d'aubaine ou conduire à une inflation des coûts. Nous pouvons notamment nous appuyer de manière utile sur ce qui est fait en Allemagne. Car il ne s'agit pas que d'une question comptable. Le budget, ce sont des choix majeurs en matière de souveraineté et de maîtrise de notre destin. Nous devons retrouver des marges de manœuvre pour maîtriser et réduire la dette de manière lucide et responsable. Nous en avons besoin pour financer la transition écologique à la hauteur des enjeux, pour inventer un modèle de solidarité à la hauteur de notre histoire et de nos valeurs.
Sophie Maître, elle a 65 ans, elle est députée de la Gironde, elle est ancienne bénévole au sein d'une association de parents d'élèves et de différentes associations culturelles. Elle a été présente sur la liste de Jean Lassalle au régional de 2010 et elle pose une question à son tour sur MaPrimeRénov'.
Les travaux budgétaires avancent, l'urgence de la rénovation énergétique est là. Quelles sont les...
Merci, la parole est à madame la ministre du Logement. Valérie Létard.
Merci Madame la Présidente, Madame la députée Sophie Maître. Permettez-moi évidemment de remercier le propos que vous venez de poser qui expose globalement les enjeux qui sont devant nous pendant ce deuxième semestre 2025 prendre en considération la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, utiliser les outils que des propositions de loi issues de vos rangs permettent de maintenant mettre en application pour faire en sorte que chaque euro aille au bon destinataire, qu'il n'y ait pas de dérive au dispositif, de redéfinir les contours de la rénovation d'ampleur avec le secteur pour faire en sorte, comme vous venez de le rappeler, pas d'effet d'aubaine, éviter effectivement de se retrouver dans une situation où, alors que nous mettons les moyens, on se retrouve effectivement quelquefois à réinterroger le système. Il est tout récent. Mon accompagnateur rénove, la réno globale, c'était début 2024. C'est là que ça a pris son enveloppe, son envol. Nous avons les premiers retours sur expérience. C'est maintenant qu'il faut effectivement tous ensemble, avec le Parlement, avec vous et avec les acteurs du secteur, mettre à profit ces 2 mois et demi qui nous sépareront de mi-septembre pour continuer l'effort, l'amplifier avec des C2E supplémentaires, mais le faire en responsabilité pour que le plus grand nombre en bénéficie.
Je sais plus ce que c'est les C2E.
Merci. Beaucoup,
c'est les contrats d'économie d'énergie,
la parole est à présent,
je crois.
À Monsieur Mathieu Marquiot pour le Rassemblement national.
Mathieu Marquiot pour le RN.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie. L'industrie automobile française, jadis fleuron national, est aujourd'hui en déclin. Selon une étude récente du secteur, 50% de la production de composants pourrait disparaître d'ici 5 ans. Résultat, 40 000 emplois menacés. Pourquoi ce naufrage ? Parce que la Macronie mène depuis des années une politique hostile aux automobilistes, en particulier les plus en difficulté. Hausse des taxes sur le diesel, malus écologique toujours plus punitif, fin programmée des moteurs thermiques en 2035 et surtout les fameuses zones à faible émission remises en cause grâce à la mobilisation des députés RN. Car il n'y a que les députés du Rassemblement national avec Marine Le Pen pour défendre ces millions de Français qui souffrent. Ces Français qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique à 40 000 euros. Vous ne jurez que par la voiture électrique, mais elle ne peut pas être l'unique solution. Elle est trop chère, peu autonome, longue à recharger et les batteries posent elles aussi de sérieux problèmes environnementaux. Elle doit s'inscrire dans un véritable mixte énergétique qui offre le choix aux Français, pas devenir une nouvelle religion sans pratiquants. L'automobile est le symbole de l'échec de votre politique de réindustrialisation. La France ne se réindustrialise pas, elle bricole, elle recolle des morceaux pendant que tout s'effondre. Croyez-vous vraiment à la réindustrialisation de notre pays alors que votre propre délégué à l'investissement, Bruno Bonnell, affirme « Tant qu'on ne change pas profondément notre approche, il faut arrêter de parler de réindustrialisation. Voilà l'aveu. » Les États-Unis, le Japon ou la Chine protègent leur industrie. Et vous, vous continuez à vous soumettre aux règles d'une Union européenne qui interdit toute préférence nationale, même quand il s'agit de sauver nos ouvriers et nos usines. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous enfin défendre notre industrie automobile et nos ouvriers ? Allez-vous imposer du contenu local, soutenir le thermique propre et garantir aux Français le droit de circuler librement ? Ou allez-vous encore céder au dogme d'un libre-échange qui ruine notre économie et menace notre souveraineté ?
Mathieu Marquiot, député du Nord. Il siège au sein de la Commission du développement durable et il défend l'automobile non électrique.
Merci, Madame la Présidente.
Marc Ferracci qui va répondre, le ministre de l'Industrie.
150 000 emplois industriels supplémentaires, des centaines d'usines qui ont ouvert. Un pays qui est pour la 6e année consécutive le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers et en particulier pour les investissements industriels. Je pense que cette majorité et celles qui se sont succédées depuis 2017 n'ont pas à rougir de leur bilan en matière industrielle, monsieur le député. Est-ce que ça signifie que tout va bien ? Est-ce que ça signifie que tout cela est satisfaisant ? Est-ce que ça signifie que tout cela est suffisant ? Non. Il faut se battre. Il faut se battre pour nos filières en difficulté. Vous parlez de l'automobile. C'est une filière en difficulté et en particulier celle des équipementiers automobiles. Il faut se battre sur chaque dossier industriel, comme nous l'avons fait à Fonderie de Bretagne, avec les élus, avec l'engagement de l'État, c'est près de 300 emplois sauvés, comme nous l'avons fait à Arc, dans le Pas-de-Calais, avec là aussi l'engagement des élus, de l'État, c'est 4000 emplois sauvés, comme nous l'avons fait avec Chapelle d'Arblay en Seine-Maritime, un projet qui est aujourd'hui sur les rails et qui représente là aussi des centaines d'emplois. Donc, encore une fois, il faut sortir des caricatures, monsieur le député, et admettre que l'action en matière industrielle, elle se déploie depuis bien longtemps. Il faut se battre aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Nous nous battons pour la simplification, et nous l'avons fait avec mon collègue François Rebsamen, en exemptant, dans le cadre du projet de loi simplification, les projets industriels du ZAN. Nous le faisons également en maintenant la stabilité fiscale, en maintenant la baisse du coût du travail qui a créé des centaines de milliers d'emplois depuis 2017. Donc maintenant, monsieur le député, vous nous dites il faut mieux protéger. J'ai l'impression que vous avez manqué ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce qui s'est passé ces derniers mois. Nous avons œuvré pour que l'Union européenne, sur la voie de la France et sur ses propositions, sorte de la naïveté. Nous avons aujourd'hui des propositions qui vont taxer l'acier chinois de manière plus importante, qui vont protéger l'industrie automobile de manière plus significative.
S'il vous plaît.
Cette sortie de la naïveté, nous l'assumons et vous n'en avez aucunement la paternité. Nous la portons au niveau européen. Nous allons continuer à le faire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
C'est la fin de la séance des questions d'actualité au gouvernement. Les députés vont pouvoir quitter la séance pour retourner à travailler dans leur bureau. En tout cas, une séance au cours de laquelle on a eu plein de questions. Boum, elles sont là. Plein de questions, notamment sur MaPrimeRénov'. Alors ça, on a vu clairement la panique qu'il y a eu dans les médias quand on a appris que le gouvernement réfléchissait à supprimer MaPrimeRénov'. Et on a entendu Valérie Létard, la ministre, essayer de battre la coulpe. Non, c'est pas la bonne expression. Mais battre en retraite cette rumeur-là. Non, le gouvernement n'abandonne pas le dispositif MaPrimeRénov' qui permet aux propriétaires de logements de faire des travaux de rénovation pour isoler leur logement et faire des économies d'énergie et économiser des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, évidemment. Et puis on a eu des questions, quelques questions sur Gaza, sur la flottille pour Gaza, il n'y en a eu que deux. Non, il y a surtout eu des questions sur les armes blanches et l'insécurité au collège, hein, suite au drame qui s'est passé dans la Haute-Marne, où une surveillante a été tuée par un collégien armé d'un couteau. Et on a appris donc que Naïma Moutchou allait, donc la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou, va avoir une mission gouvernementale pour travailler sur la suite des préconisations qu'elle avait formulées dans un rapport qu'elle vient de rendre. Battre sa coulpe. Non, mais battre sa coulpe, c'est une autre expression. C'est autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. Le gouvernement dit suspendre MaPrimeRénov' pour empêcher les fraudes. Mais sur quelle statistique se base-t-il ? J'en sais rien. Je pense que c'est des statistiques sur des gens qui font des travaux de rénovation qui n'ont rien à voir avec l'isolation. Je suppose que c'est ça la fraude. C'est des gens qui touchent MaPrimeRénov' pour faire des travaux chez eux en disant que c'est pour la rénovation thermique. Et en fait, c'est pas du tout pour la rénovation thermique, c'est pour poser du parquet. Je suppose, hein, j'en sais rien. Là, c'est de la pure supposition que je fais, j'en sais rien. J'ai pas le dossier, je connais pas le dossier. La fraude, c'est plutôt les entreprises qui surfacturent. Ah ouais, c'est possible aussi. C'est possible qu'il y ait des entreprises qui fassent monter les prix parce qu'ils savent que les clients vont bénéficier de l'aide MaPrimeRénov'. Ouais, oui, ça m'étonne pas comme pratique de fraude. Effet de rebond classique. Oui, c'est un effet qu'on peut constater sur d'autres types d'aides, hein, d'ailleurs, c'est pas propre à MaPrimeRénov'. Mais s'il fallait faire un coup de balai, le problème, c'est que ça risque de porter atteinte aux objectifs climatiques du gouvernement, quoi. Qui ont déjà été sacrément amochés ces derniers temps, avec la loi du plomb et tout. La suppression des ZFE, le retour en arrière sur les ZAN. Il y a aussi des artisans qui font mal les travaux parce que c'est pas contrôlé. Ah bah ça, malheureusement. Bienvenue dans le bâtiment. Le ZAN, c'est zéro artificialisation nette. Exactement. Zéro artificialisation nette des sols. Qui embêtait certains élus locaux, notamment certains maires qui voulaient construire du logement social mais qui peuvent pas artificialiser des sols à cause du ZAN. Les ZFE, ça peut se faire bloquer par le Conseil d'État ? À partir du moment où c'est voté par le Parlement, non. Si j'ai bien compris, les ZFE, ça a été voté par le Parlement. Après, c'est encore en cours de navette, évidemment, c'est pas définitif, mais... Mmh. Pourtant, le dossier MaPrimeRénov' est déjà super laborieux, donc je vois mal comment réduire la fraude. Ah bah ça, j'en sais rien. Ça, la lutte contre la fraude sur ce type de dispositif, c'est vraiment difficile. Hein. Merci Alcebad pour ton resub. Merci à Blaze Carbone. Merci Noxras, Damos, Mister Yanoche, Vincenzo, Squilix, Personne, Mefcat, Melclem, Miss Dante, Lalunia, Amish Molette, Bash Ananas, Obdal FR, Canicine, Perceval, Ludacity, non, Lutadici, pardon, Seigneur Burrito, Saphir 44. Merci beaucoup pour vos abonnements. Est-ce que le ZAN a été supprimé ? Je crois qu'il a été assoupli. Et je crois que c'est encore en cours de discussion d'ailleurs, c'est pas définitif. Il a été considérablement assoupli. Ce qui veut dire que, enfin, c'est le principe du zéro artificialisation net. Si tu fais zéro avec une petite astérisque en disant sauf exception, c'est que forcément tu réduis vachement l'ambition du truc, quoi. Concernant la suspension de MaPrimeRénov', il y a un article de Mediapart qui rappelle que les crédits de gestion ont été diminués alors que les experts avertissaient que ça allait repartir. Et donc là, il n'y a plus de moyens pour suivre les dossiers. C'est pas qu'une question de fraude. Merci pour ton commentaire. Effectivement, c'est ce que j'avais cru comprendre, qu'on était par-delà la question de la fraude. On était sur un manque d'ambition du gouvernement à un moment où les dossiers sont en train de repartir à la hausse, où il y a de plus en plus de gens qui veulent bénéficier de MaPrimeRénov', quoi. Le gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel pour la suppression des ZFE. D'accord. D'accord, ok. Hop, attendez, il faut que je coupe. Voilà. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Bon, est-ce qu'elle vous a plu, cette séance de questions au gouvernement ? Est-ce que vous avez appris des trucs ? Sur la flottille, tu trouves pas qu'il y a un souci de l'absence de réponse diplomatique de la France ? Bah si, la réponse diplomatique de la France, elle pourrait être plus forte que ça. Elle pourrait exiger la libération des quatre sortissants qui sont encore sur le territoire, qui vont être jugés par Israël. On se doute qu'ils vont être expulsés après leur jugement, hein, ça c'est, on s'en doute, mais... Elle était frustrante, cette séance, d'accord. C'était long. Non, bah ça a commencé par un hommage aux deux pompiers qui ont été tués. Donc, et ensuite à la surveillante qui a été poignardée. Est-ce qu'il y en a souvent des interventions comme celle de Brun ? C'est-à-dire, quel genre d'intervention ? C'était juste une question au gouvernement d'opposition. Et oui, il y en a toutes les semaines. MaPrimeRénov' x10, c'est un peu abusé. Bah, c'est parce que ça mobilise les députés, quoi. Parce que leurs administrés sont mobilisés. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui sont touchés par MaPrimeRénov'? Est-ce qu'il y en a qui ont eu recours à MaPrimeRénov' ou qui espèrent y avoir recours bientôt? Mes parents ont recours, ouais. Oui, j'ai déposé un dossier. Oui, je suis en plein dedans. Oui, oui. Locataire, donc non. Ouais, moi je suis comme toi, je suis locataire. Mon logement que je loue l'a eu, ouais. Non, moi je suis pareil, je suis locataire pour l'instant. J'aimerais bien acheter un jour, mais... faut de l'argent pour ça. J'ai bénéficié avec un contrôle contre la fraude 2 mois après. Ok. Ah bah au moins, ça a été contrôlé. Tant mieux. Mon père est patron et ça représente 70% de ses clients. Ah ouais, dans le bâtiment ? Bah ouais, c'est beaucoup, hein, MaPrimeRénov', mine de rien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont concernés par le sujet. Hein. Donc c'est pour ça que les députés s'en saisissent aujourd'hui, quel que soit le camp politique qui pose la question. Achète en Meuse, c'est moins cher et il y a la gare TGV pour Paris. Achète en centre-Bretagne, t'as tout mon écolieu pour moins que le prix de ton appart. Non, je vais rester à Paris. Y a jamais de train de la hype lancé pour Jean Massier? Si, il y a des trains de la hype des fois. Si, ça arrive. Mais faut s'abonner pour ça. Et une fois que t'es abonné, ça peut déclencher le train de hype. Merci d'ailleurs à Dance, à Danchebut, Sad League, Utopie, Asbad et à Blaze Carbon. Merci beaucoup pour vos abonnements. Je vais m'arrêter là, moi, les amis. Il est 16h30. Je vais m'arrêter là. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec moi sur ce stream. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 13h pour la séance des questions au gouvernement de mercredi. Ça vous va? On fait ça? Rendez-vous demain à 13h. Passez une bonne soirée d'ici là. Et je vous dis à demain. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.